aller chercher de l'argent d'investisseurs, hein, faut le dire tout le temps, on peut dire plein de choses. Trouver 1 million d'euros auprès d'investisseurs, c'est beaucoup plus simple que de vendre 1 million d'euros. Juste pour donner une comparaison, hein, les US, c'est 130 milliards d'euros investis l'année dernière dans les startups. Nous, on en est plutôt autour de 15 milliards. Donc un autre conseil qu'on peut donner, c'est qu'il n'y ait que un ou une des co-founders qui se mettent sur le sujet de la levée de fonds. Ça ne sert à rien d'aller dans les pitchs à trois. C'est vraiment, généralement, c'est le ou la CEO qui va être référent sur le sujet. C'est évident qu'il y a des abus, c'est évident qu'il y a des risques, c'est évident qu'il y a des gros échecs aussi. Des boîtes qui ont été très financées et qui vont au tapis, c'est le propre.
Bienvenue sur The Thinking Gallery, le podcast qui décortique la pensée des leaders d'aujourd'hui afin d'anticiper le monde de demain. Je suis Paul Terrasson-Duvernon et je suis accompagné de mon fidèle acolyte Arthur Derberian. Vous êtes prêts ? Abonnez-vous et on vous propose de plonger dès à présent dans The Thinking Gallery.
Diplômé d'Alsace et de Dauphine en droit fiscal et des entreprises, il entre dans le monde du travail en fondant plusieurs médias destinés aux juristes. En 2014, après avoir cédé ses activités à Leaders League, il en prend la tête durant 6 ans avant de cofonder Eldorado, la plateforme de référence pour aider les startups à se financer. Il est également investisseur dans de nombreuses startups via le fonds Eldorado et sa holding personnelle. Et il me semble aussi que c'est un véritable passionné de tech. Salut Adrien, comment
Salut.
Tu vas ?
Très très bien, merci pour la présentation, très cool. Je suis resté que 3 ans chez Leaders League, mais c'était déjà... Le ressenti était 6 ans, donc
ok, bon,
ça on peut garder 6 ans. Et puis, ravi d'être là et très content de participer à Thinking Gallery aujourd'hui, quoi.
Je suis trop content de t'avoir sur ce podcast. Tout à l'heure, là, on est chez Feuille Blanche. Et tout à l'heure, ils m'ont fait remarquer, en fait, je te mets de partout. Genre, tu passes chez G-Venture à plusieurs reprises, The Thinking Gallery et tout. Donc, trop content.
Bah écoute, trop content. Toujours avec plaisir si ça peut aider des entrepreneurs. Et je suis sûr que vous allez en aider.
En plus, là, aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est abordé sur tous nos podcasts avec presque la larme à l'œil, c'est comment on finance sa boîte, surtout quand on fait une techno qui est compliquée, qui est pas comprise par les, souvent pas comprise par les VC. Quand on fait du hardware, c'est encore pire. Tu vois, sur le podcast, nous on a des gens qui font des ordinateurs quantiques, qui envoient des fusées dans l'espace, qui
des trains supersoniques,
qui font de l'IA. Bon, l'IA maintenant c'est un peu plus simple, mais au départ personne comprenait trop. Tu vois, la computer vision et tout,
Les
gens comprenaient pas de ouf. Et du coup, là, l'idée du podcast, c'est vraiment sur tout cet épisode, c'est on décortique tout ça, comment on finance un projet de manière générale, et puis au passage, comment on finance la deep tech. Et du coup, pour rentrer directement dans le vif du sujet, est-ce que tu sais pourquoi c'est aussi difficile de financer de la deep tech?
Bah écoute, c'est effectivement un peu plus compliqué que certains autres secteurs, pour plusieurs raisons. La première, on va dire, déjà dans la définition d'une deep tech, c'est vraiment créer une technologie de rupture, vraiment quelque chose qui est très en rupture par rapport à l'existant, donc qui vient changer l'état de l'art dans un domaine particulier, où il faut créer un fort avantage concurrentiel. Il faut souvent des années aussi de conception, de réalisation, il faut faire travailler des chercheurs, des centres de recherche. Donc il y a un coût du capital qui est très fort au début. Et qui a surtout une perspective de revenu qui est très incertaine. Au moment où on finance l'entreprise, là, on est vraiment sur la vraie start-up, on va dire entre guillemets, le vrai capital risque, donc avec le fort risque, parce qu'on ne sait pas quand il va y avoir du revenu généré. Tu vois, on peut prendre les exemples de l'ordinateur quantique. On n'est pas destiné à tous utiliser un ordinateur quantique. Des satellites moins énergivores, des biotechnologies, de l'agriculture du futur, qui va être révolutionnaire, etc. Autant d'exemples de boîtes qui ont des applications qui peuvent être vraiment très futuristes, mais très coûteuses en capital avec un revenu incertain. Et du coup, c'est la première difficulté, c'est celle-ci, c'est de voir comment on peut créer un financement adapté pour ce type de boîte qui n'est pas une application mobile ou tu parlais de l'intelligence artificielle en ce moment. On en parle beaucoup avec ChatGPT, OpenAI et autres consorts. C'est qu'il y a beaucoup de boîtes qui disent on fait de l'intelligence artificielle, mais il y a à boire et à manger, hein, quand on soulève le capot d'un deck.
Et puis l'intelligence artificielle, ça veut tout et rien dire.
Ouais, en plus. Donc vraiment, voilà, c'est si tu fais generative avec du machine learning, avec un robot qui fait de l'apprentissage, avec de la technologie NLP qui va venir. Enfin voilà, on peut rajouter pas mal de couches entre les différentes AI. Et parfois, certaines startups ou certains entrepreneurs disent qu'ils font de l'AI alors que c'est juste de la sémantique simple et des algorithmes de matching. Là, on est vraiment dans des technologies qui vont plus loin, qui sont plus poussées. Et du coup, c'est à cause de ça que le go-to-market est plus long et donc l'enjeu capitalistique est plus fort au démarrage.
Et donc, quelles sont les différentes formes de financement? Et aujourd'hui, comment tu finances une startup?
Alors, de manière générale, les financements de l'entrepreneuriat et des startups en France, ils suivent ce qu'on appelle un continuum de financement. Et ça paraît complexe quand on y pense, mais en fait, c'est assez simple. Il y a trois typologies de financement. Il y a les banques, donc ce qu'on appelle le financement bancaire, la dette. Parfois, on appelle ça le bas de bilan, puisque ça va en bas du bilan. Le non-dilutif, qui est une catégorie qui est souvent représentée par le financement public, BPI France, les régions, les subventions et autres. On va en parler un peu, je pense. Ça, c'est non-dilutif parce que ça va pas venir te diluer dans ton capital.
Tu mets pas le crédit dans le non-dilutif?
Si, tu mets aussi les crédits. Okay. Vraiment, tout ce qui va pas, c'est à la différence de levée de fonds ou de l'equity, c'est ce qui va pas venir te diluer. Donc, tu vas pas échanger des parts sociales ou des actions contre ces financements. Et la dernière partie, c'est évidemment la plus connue, c'est le venture capital, les levées de fonds, les augmentations de capital. On peut avoir plusieurs typologies, le VC game, comme certains aiment l'appeler aussi, et qui est vraiment la troisième famille. Et du coup, c'est pour les startups, en fonction de leur stade de développement, elles peuvent solliciter généralement les trois si elles remplissent les conditions. Et pour les deep tech aussi, c'est la même chose, c'est un continuum. La différence avec les deep tech, c'est que les montants mobilisés, pour les raisons dont on a parlé au début du podcast, sont souvent plus importants. Donc les subventions, elles vont être plus élevées, les appels à projets vont être plus gros, les prêts ou les incitations fiscales vont être plus importantes, tout simplement. Et puis les levées de fonds aussi en montant, et en valeur absolue.
Avant de rentrer dans le vif du sujet des financements, est-ce que toi aujourd'hui, parmi les boîtes deep tech que tu vois passer, tu vois émerger certaines tendances quand même, certains secteurs où c'est plus ou moins facile de lever, par exemple, ou de se financer?
Ouais, on va dire que tout ce qui est lié... Je sais pas trop ce que ça veut dire facile ou pas facile, mais on va dire qu'il y a plus de financement dans certains secteurs que dans d'autres. C'est sûr, tu en parlais au début, le hardware, donc toutes les boîtes qui vont être dans la robotique ou dans la conception de drones, j'en parlais tout à l'heure, il y a une startup en France vraiment qui fait ça, alors j'ai oublié le nom, mais qui fait des satellites moins énergivores, il y a les avions bas carbone, les tests sur l'hydrogène et tout ça, c'est vraiment plus difficile, c'est vraiment des financements de niche, c'est-à-dire que là, c'est des centres de recherche, le CNRS qui va travailler avec l'INRIA, avec cinq chercheurs qui créent une structure ad hoc dans leurs travaux de recherche, qui vont ensuite aller chercher des appels à projets de l'Union européenne, de la BPI, etc. Donc ça va être très spécifique. Et on a toute une autre catégorie plutôt de deep tech qui va être plutôt... Alors il y a les biotech aussi qui sont très, très spécifiques, puisque les biotech c'est vraiment... Là, c'est tiré à son paroxysme ce qu'on a dit tout à l'heure, puisque parfois il faut travailler sur la conception d'une molécule, des tests médicaux, etc., pendant 4-5 ans avant une mise sur marché. Donc ça va être très consommateur en capital et en financement pour aboutir sur des solutions très innovantes. Mais il y a une dernière catégorie, enfin une catégorie où il y a plus de facilité, entre guillemets, je mets puisque tu disais facile,
ouais.
Mais voilà, tout ce qui va être dans l'intelligence artificielle, dans l'électronique aussi, il y a pas mal de startups qui travaillent dedans. Enfin, dans tout ce qui est software deep tech, il va y avoir pas mal de fonds d'investissement notamment qui vont se positionner assez tôt, peut-être pas en seed, mais qui vont se positionner.
Parce que le risque est moins élevé.
Peut-être parce que le risque est moins élevé de par...
Les besoins de financement plus bas.
Ouais, voilà.
C'est
la conjonction des deux, exactement. Tu vois, c'est que à la fois, c'est moins risqué et à la fois, on peut le faire plus par strat, on va dire, progressive de financement.
Ouais. Au cours de l'épisode, on va un peu décortiquer les différentes phases, les différents types de financement et à quelle phase ils sont pertinents. Donc, il y a plusieurs phases. Tu l'as déjà un peu dit, il y a le pré-seed, souvent c'est du BA, de la love money, des copains qui mettent un peu d'argent. le seed où là, il commence à avoir des fonds qui rentrent. Et après, série A, série B, série C, jusqu'à introduction en bourse ou pas. Est-ce que tu constates des grandes tendances entre l'Europe et les US? Est-ce qu'on peut parler d'Europe ou faut vraiment distinguer chaque pays au sein de l'Union européenne?
Tu veux dire sur les montants, sur la dynamique
tout.
De financement?
Ouais, la dynamique, les montants.
C'est vrai qu'on a en tout cas pas mal de fondateurs qui opposent un peu les deux continents. Donc,
ouais.
C'est intéressant d'avoir ton
avis. Alors, c'est toujours intéressant. Moi, ça fait quasiment 15 ans maintenant que je suis dans la tech, mais on a toujours eu ce goût à la comparaison. Y a une maxime qui dit comparaison n'est pas raison. Donc, c'est un petit peu le cas. Se comparer aux US, c'est très bien parce que ça nous permet un peu de regarder plus loin, de regarder plus d'ambition, d'insérer une ambition, pas notamment sur le financement, mais plutôt sur l'ambition des marchés visés par les startups et de la dimension qu'on peut prendre à un projet. Et ça, on a toujours été assez en retard. Même là sur l'intelligence artificielle, on le voit encore, on est en 2023 et même s'il y a les ministres Jean-Noël Barrot ou Emmanuel Macron qui va à Vivatech, etc., voilà, ils disent on va développer une enveloppe de 500 millions pour les deep tech, etc., AI, c'est super, c'est génial parce que cette initiative de l'État, elle va être très forte, mais comparé aux US, c'est sans commune mesure, tu vois. OpenAI, ils ont levé plus d'un milliard de dollars assez rapidement, etc. Donc, les dimensions sont pas les mêmes. Donc, je suis pas sûr que se comparer, ça a toujours été positif. Maintenant, ça nous permet de nous situer aussi. Donc, nous situer aussi, parce qu'on peut pas se dire qu'on est structuré comme les US. Hein. Aux US, t'as la Silicon Valley, t'as des centres, t'as des hubs technologiques très forts. Juste pour donner une comparaison, hein, les US, c'est 130 milliards d'euros investis l'année dernière dans les startups. Nous, on en est plutôt autour de 15 milliards. Donc, ouais. Voilà.
Il y a un gros gap.
Exactement. Tu vois, c'est un gap énorme. Ouais. Mais, culturellement, on n'a pas la même manière d'investir. Les Américains sont très rapides, très, comment dire, habitués au risque,
ouais.
Tu vois, très habitués au risque, et puis très habitués aux échecs aussi. Ils glorifient même les échecs. Alors c'est culturellement, c'est totalement différent. Moi, j'ai même lu un livre sur le sujet qui disait les Européens ont toujours cette fâcheuse tendance à se comparer aux Américains en se disant bah tiens, ils sont blancs, caucasiens, de même culture un peu parce qu'il y a des McDo chez nous et chez eux. Mais en fait, culturellement, ça a rien à voir. C'est ouais. Comme si c'était en Chine ou dans d'autres pays. Et ça culturellement et même de historiquement, parce que les startups qui ont été créées aux US ont été des modèles de développement, on a voulu copier en comparant, ça a fait des bonnes choses, ça a fait des moins bonnes. Donc je pense que je suis plutôt pour dire il faut que chaque écosystème se développe en se rapprochant de d'autres, en se comparant peut-être sur des éléments clés. Voilà, un des éléments français, par exemple, c'est le fort interventionnisme de l'État, ouais. Avec BPI France, on va en parler, je pense, mais sur le financement, sur l'investissement, là, il y a une loi qui vient de sortir, qui est la loi Tibi 2, donc de Philippe Tibi, qui est un député qui va viser à aider les fonds d'investissement à lever plus d'argent. On va en parler aussi, je pense. Ça, c'est des initiatives d'encouragement, de fléchage de l'investissement, parce que en France, on est plus sur l'épargne ouais. Que sur le risque. Voilà, encore une fois, culturellement, même par rapport aux Anglais, tu disais, même les autres pays européens, on n'est pas du tout dans la même structuration. Le pays dans lequel on se rapproche le plus, les deux pays, c'est Israël et l'Allemagne. Bon, après, évidemment, les pays latins.
Pourtant, Israël,
ouais, sont
la
très
deep tech, c'est simple. Hein. Bah, je ne vais pas dire que c'est simple, mais ils ont une culture de l'innovation et de l'innovation de rupture qui est beaucoup plus poussée que la France.
Ouais, je suis d'accord. En fait, Israël a été très rapide, mais dans la structuration de ouais. Son écosystème, il y a des similitudes, okay. Notamment sur l'interventionnisme de l'État pour créer des fonds de capital risque qui ont pris ensuite le relais. En France, on attend encore ce relais qui est pris parce que les fonds de capital risque doivent être pas que financés ou cofinancés par BPI, mais on attend à ce qu'il y ait des assureurs, des institutionnels, des banques qui mettent beaucoup plus de parts dans cette partie risquée qui va être déterminante pour créer après des grosses levées de fonds, des levées de fonds plus ambitieuses. Donc voilà, cette catégorie-là, elle est très propre à nous. Ce qu'on peut dire, en revanche, c'est que si on compare, c'est qu'en Europe, on est l'écosystème le plus dynamique, ouais. Dynamique en termes de progression notamment. On est l'écosystème qui a le plus progressé ces 5 dernières années, voire même ces 10 dernières années. Entre 2013 et 2023, c'est facile, on a fêté les 10 ans de la French Tech. Moi, j'ai connu le monde avant la French Tech, donc je peux en parler. C'était vraiment très, très naissant. Et après, il y a eu l'émergence de la démocratisation de l'entrepreneuriat, The Family, Numa, BPI France, un certain nombre de d'initiatives. Puis, la phase d'accélération 2017-2022 avec l'émergence de capitaux privés avec des nouveaux fonds, plus de business angels, des générations d'entrepreneurs qui
réinvestissent. Kima, ça a été créé en quelle année?
Kima, ça existe depuis... attends, je veux pas dire de bêtises, mais Jean, je crois qu'il y est depuis 2015. Et avant, il y avait Jérémy Beribi. Je pense que... J'imagine que ça devait exister dans les années 2009-2010 quand même, okay. Donc avant. Parce que Xavier Niel, historiquement, était... de toute façon, quand tu parlais de start-up en 2010, honnêtement, personne ne savait ce que c'était. Ouais. Très peu de gens, sauf autour d'ici, là où on est, dans les locaux de Feuilles Blanches, donc autour de Bourse, Sentier, ça allait, parce que c'était un peu le cœur. Le Silicon Sentier, comme on appelait ça.
Toujours sur le chemin, soit le Malte.
Il y a vraiment beaucoup de start-up ici. D'ailleurs, peu de gens savent pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi historiquement les startups sont autour de Bourse et du Sentier? Et ben parce que le réseau internet le plus puissant qui existait dans les années 90 et 2000, c'était autour de la bourse, puisqu'il fallait un fort débit pour traiter les opérations boursières. Donc après, les startups se sont mis autour.
Vu qu'elles faisaient de la tech, elles se sont mis autour parce qu'elles avaient besoin.
Exactement. C'était un peu l'anecdote de père Castor de la tech. Ça fait vraiment très vieux, mais je suis ravi de le partager. Mais je vous rassure, on me l'a dit aussi il y a peu de temps. Donc exactement. C'est un truc de dîner mondain. Mais voilà. En tout cas, je pense 2009-2010. Parce que à l'époque, cette époque-là, il y avait personne ne savait que c'était qu'une start-up. En revanche, une fois par an, Challenge, ils faisaient une sur les start-upers français. Mmh. Et puis, tu avais Marc Simontini, Jacques-Antoine Grangeon et Xavier Niel, le pouce en l'air, chemise blanche. Et c'était ça. C'est de là que c'est un peu né. Évidemment, il y avait d'autres entrepreneurs qui commençaient déjà à l'époque dans la tech, mais c'était très naissant, quoi.
D'accord. Alors après, c'est vrai que. On se rend compte que la deep tech est un peu spécifique dans le sens où il y a parfois des questions de souveraineté qui peuvent en tout cas se cacher derrière. On parle souvent de la volonté de faire un GAFAM européen et pour ça, comme tu le disais, l'État français donc œuvre de plus en plus, notamment à travers les subventions. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est une subvention et en quoi ça se différencie d'autres types de financement?
Clairement. Donc ça, c'est un peu ce que on disait sur le continuum de financement. Quasiment toutes les startups ont des possibilités d'avoir des subventions, même beaucoup d'entreprises en France. C'est un mécanisme de financement qui peut concerner les commerces, les TPE, les PME, etc. dans un certain nombre d'initiatives de subventions existantes. C'est vrai que c'est une jungle de s'y retrouver parce qu'il y en a plus de 1700 dispositifs de financement non dilutif, d'où l'existence d'Eldorado. Mais nous, on essaye de vraiment rationaliser ça en expliquant un peu avec pédagogie que c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que en vrai, tout entrepreneur peut accéder à des subventions si tant est qu'il respecte les conditions. L'avantage de la subvention, le premier et celui qui est le plus évident, c'est que t'as pas à la rembourser. Donc ça, quand même, c'est magique. C'est ce qu'on appelle l'argent gratuit. Alors, ceux qui critiquent vont dire, ah là là, on subventionne à fond l'écosystème, etc., blabla. Un peu les ours mal léchés de l'écosystème français. Moi, quand je vais à San Francisco, parfois, ils disent, ah non, mais c'est dingue. Vous, en France, on vous donne de l'argent gratuitement. C'est un peu forcer le trait parce que c'est, je pense, méconnaître l'activité de BPI France qui n'est pas juste... dans BPI France, il y a banque, il y a public et il y a investissement. Mais il y a vraiment une initiative qui a permis à énormément de startups d'émerger. Donc, les subventions de démarrage, c'est généralement autour de 30 000 euros. 30 000 euros, quand on démarre un projet, vous le savez aussi, parce que vous démarrez aussi des projets, ça peut être déterminant.
Ça crame vite.
Voilà. Ça t'aide.
Ouais.
Alors, ça se crame très vite, même 1 million d'euros, je peux dire que ça se crame assez vite.
Encore plus en digital.
Ouais, et puis même dans la tech de manière générale. Mais... c'est un mécanisme qui présente ce premier avantage de pas être remboursé. Alors c'est pas une donation non plus, parce que ça reste un produit imposable, mais on va pas rentrer dans les détails comptables. Mais voilà, il y a des impôts à payer dessus si vous êtes rentable, etc. Et qui peut varier, qui peut aller sur des sommes très importantes en fonction des domaines. Sur les deep tech en particulier, je vais vous donner trois exemples de dispositifs qui sont très propres en France, qui sont très bien. Il y a ce qu'on appelle la Bourse French Tech Émergence, donc la BFTE. Ça va jusqu'à 90 000 euros de subvention.
C'est ici que quasiment tout le monde peut avoir.
quand t'es en deep tech, quand t'es labellisé deep tech. Et en fait, ces subventions-là, elles sont pas que de l'argent, en fait, parce que ça te donne un label qui ensuite te sert pour énormément de choses, pour travailler avec des centres de recherche, pour recruter des chercheurs, pour avancer dans des marchés, pour rentrer dans des écosystèmes, être dans des événements qui sont liés à tes enjeux propres. Donc c'est pas que cet argent-là, c'est aussi un suivi, un accompagnement. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt très pro subvention quand c'est bien fait. Et croyez-moi, avec Caisse des Dépôts, Banque des Territoires, BPI France, c'est des très bonnes personnes. C'est vraiment du très bon professionnalisme dans l'investissement. Ça fait 10 ans qu'ils font ça, qu'ils ont une initiative aujourd'hui sur les deep tech, hein, beaucoup très poussée. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment les enjeux de l'État, c'est deep tech, climate tech, enfin au sens large, impact, on va dire. Là-dessus, il y a France 2030, il y a beaucoup d'initiatives.
Ouais, on reçoit Bruno vendredi à ce sujet-là, Bruno Bonnel.
Ah oui, d'accord. Ouais, vous aurez l'occasion d'en parler aussi, mais c'est vraiment un mouvement de fond qui est poussé et on en verra les bénéfices progressivement, mais on en voit déjà les bénéfices sur la BFTE, qui est un des premiers dispositifs. Le deuxième qui peut être important, c'est ce qu'on appelle l'aide au développement deep tech, donc c'est l'ADD, les ADD, qui sont des avances remboursables, mix avances remboursables, subventions, qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Donc là, directement, on voit que c'est un apport très fort, quoi, limite corrélé à une levée de fonds, corrélé à un apport de capital, corrélé à un corporate qui va venir travailler avec la start-up, c'est déterminant pour ces boîtes-là qui ont, comme on l'a dit tout à l'heure, des besoins en capitaux importants. Et les plus connus aussi sont les concours BPI France, donc ce qu'on appelle Innov, I-Nov, Innov ou Innov, iLab aussi, ou IPHD, donc sur les travaux de recherche. Et là, on peut aller jusqu'à 600 000 euros. Pareil, c'est des mix, hein, parfois c'est des avances remboursables mixées avec des subventions, mais principalement c'est des subventions. Donc dans les deep tech en particulier, on voit que les montants peuvent être plus importants. Et ce premier produit de la subvention, qui est aussi bien pour la startup qui crée une nouvelle application mobile de réservation sur une thématique particulière, si tant est qu'elle est innovante. Quand on fait de la R&D, ce qui est un peu la frontière, hein, entre innovation et R&D, on peut aller plus loin sur les subventions existantes, quoi.
Et à quel stade c'est pertinent ces subventions ? À quel moment dans ta boîte tu te dis vas-y, je vais faire de la subvention ?
En fait, tu peux quasiment à tous les stades. C'est-à-dire que ce soit même antécréation, donc vraiment pré-produit, pré-revenu. Par exemple, dans la deep tech, tu as beaucoup aussi de subventions de prototypage, ce qu'on appelle des aides à la faisabilité, que au moment où tu es vraiment dans la phase de développement commercial et d'accélération. Donc entre les deux, tu as le R&D, les preuves de concept, les améliorations, produits, le travail en amont, de recherche. Et puis sur la commercialisation, tu as même l'Union européenne qui délivre pas mal de subventions. Il y a Horizon Europe, hein, qui est une des grandes initiatives de l'Union européenne, à travers plusieurs dispositifs. On va pas tous les lister parce que ça va être trop détaillé et puis beaucoup d'acronymes, mais on pourra partager des ressources là, sur le sujet. On en a plein avec Eldorado. Et cet enjeu de financement sur cette phase d'accélération, c'est parce que la startup a besoin de nouveau d'un petit coup de pouce, quoi, après avoir eu ses premières aides. Donc on peut avoir assez probablement tous les types de financement à tous les stades de développement. Tu peux lever des fonds en seed, tu peux lever des fonds en série C, tu peux avoir des subventions à l'amorçage ou au développement pour financer certaines parties, et tu peux avoir des prêts bancaires ou des prêts BPI ou autres.
À ces comment stades tu trouves tes subventions ? Comment tu trouves la bonne subvention au bon moment ?
Tu vas sur Eldorado. c'est facile. Non, blague à part, c'est un millefeuille. C'est assez complexe. Déjà, faut comprendre dans le mécanisme qu'il y a des conditions. Faut avoir des fonds propres, donc des capitaux suffisants. Faut cofinancer le projet. Hein. Les subventions publiques, elles sont jamais faites. C'est pas du don. C'est pour ça que c'est du cofinancement. Hein. C'est financé à 50% et ça va pas financer entièrement un projet technologique. Ça va venir financer une partie de ce projet de développement R&D. Donc, faut rentrer un peu dans les conditions géographiques, d'âge parfois de la boîte, rentrer un peu dans les clous de ces conditions un peu administratives et de conditions projet. Tu passes des comités, alors moins que les levées de fonds, mais tu passes quand même
certains processus sont quand même il faut ramer un peu, c'est ça. Okay.
Des dossiers importants à faire. Nous, on aide beaucoup sur des dossiers de financement type Innov, iLab, les ADD aussi. On pourra parler d'exemples de startups qui ont eu ce genre de boîte, enfin de ce genre de financement là. Et T'as ces conditions de base et après les connaître, c'est la grande difficulté. Même des entrepreneurs, t'as des aides qui sont assez mainstream, tu vois, la bourse French Tech, InnovUp, les prêts d'amorçage, etc. Les conseils qu'on peut donner aux entrepreneurs pour qu'ils puissent savoir s'ils louent pas, parce que t'as aussi un FOMO de se dire, tiens, est-ce que j'ai pas oublié une subvention, etc. C'est d'aller sur Eldorado, on l'a déjà dit. Mais surtout, c'est de regarder quel est le chargé d'affaires BPI France qui correspond à leur projet dans leur localité, le contacter ou la contacter, et de nouer un lien pour dire voilà qu'est-ce qu'on développe, ce qu'on fait, comment on travaille. Ensuite, il y a tout ce qu'on appelle des structures d'accompagnement. Donc, ça peut être incubateur, accélérateur, association entrepreneuriale. C'est quand même beaucoup plus accepté par BPI France ou les organismes publics quand une start-up est dans un réseau d'accompagnement. Ça veut dire qu'elle est soutenue. Et généralement, il y a des personnes dans ce réseau, l'effet réseau, qui dit bah, « je connais quelqu'un qui a eu telle subvention ». Donc, il y a l'effet réseau qui joue. Et puis, la troisième, c'est de se renseigner, tout simplement, hein, d'aller chercher CEO, que ce soit en deep tech ou en retail ou autre. C'est Chief Everything Officer, donc c'est je vais aller chercher tout ce que je peux essayer de trouver sur le sujet et me renseigner.
Et quand t'as ta boîte, combien de temps tu dois passer à faire ça? Parce que tu vois, moi j'aurais tendance à dire, vas-y, vends ton produit, fais du chiffre d'affaires, les subventions, c'est pas la prio, tu vois.
Ouais. T'as pas encore de produit, c'est là où la nuance.
Ouais, mais t'as pas encore ton produit, crée ton produit. Ouais, rencontre des gens de ton marché, faire un produit qui est pertinent.
Ouais, c'est une bonne question. C'est un peu la question un peu de démarrage. C'est le focus, comme tu dis, hein, focus produit, focus client. Bon, beaucoup de gens qui parlent de financement aujourd'hui. D'ailleurs, je suis assez parfois étonné que voir dans l'écosystème, les gens aiment bien se tirer les pattes. Par exemple, là, il y a récemment Luco qui a été racheté par un fonds LBO. Qui il y a beaucoup de gens qui ont critiqué en disant ah ouais ils se sont fait racheter moins que sur les valos, ils aiment bien se tirer dessus alors que quand même c'est et puis surtout il y a eu des informations fausses, etc. Et c'est un peu les rageux de l'écosystème, ils sont toujours très forts, quoi, un peu comme partout, hein. Mais sur les subventions pareil, ils vont dire ah ouais mais on te l'a donné ou tu connais quelqu'un, etc. Donc en fait une subvention, c'est quand même un travail ou un prêt, hein, un dossier de financement à faire. C'est un travail important. Quand on n'est pas appétent sur la finance, les business plans, etc., bon, on est obligé de passer à un certain stade. Hein, quand on est entrepreneur, on est obligé de le faire. Mais si tu... voilà, si tu apprends, exactement. Si tu as besoin c'est assez chronophage. Ouais. C'est, en plus, si tu couples ça avec le fait d'aller faire chercher des investisseurs, la levée de fonds, le produit ou le service que tu es en train de développer, etc. C'est vrai qu'il y a que 24 heures dans une journée. Voilà.
Quelle priorité faut y donner, parce que ça prend du temps. Et tu vois, pour revenir un peu sur ce que tu disais à propos de la Silicon Valley, etc. C'est vrai que lorsque tu vas voir des entrepreneurs à l'étranger, tu vois, moi j'en ai vu énormément à Londres, j'ai fait aussi un tour en Turquie, j'en ai vu plusieurs et tout. Là-bas, il y a pas de subvention, il y a pas de chômage, il y a rien du tout. Donc tu te sors les doigts, tu fais ton produit et tu vends ton produit.
Mmh. Et tu vends pas et tu closes.
Voilà, et en France, la France vue de l'étranger, on se dit ah ouais, en fait les gars, ils vont gratter de la subvention et en fait leur job c'est plutôt d'aller prendre la thune de l'État et après ils testeront leurs produits.
Ce que je comprends qu'on puisse dire ça. Après moi je suis un fervent défenseur en plus de ce côté possibilité donnée grâce à l'État de justement de créer des boîtes et de, voilà. Mais c'est sûr que il peut y avoir des abus comme dans tout. Mais c'est quoi, c'est 2-3% des boîtes qui vivent biberonnées aux subventions jusqu'à mourir à petit feu. Honnêtement, on a eu les mêmes critiques sur le PGE, par exemple, hein, les prêts garantis État qui ont été délivrés pendant le Covid a permis de sauver des boîtes. Aujourd'hui, on est dans une deuxième phase de critique parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui peuvent pas les rembourser. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui disent, ah bah, vous voyez, on vous avait dit, aider les boîtes comme ça, c'est vraiment la bonne manière.
Idées,
enfin, on oublie, les boîtes qui ont su se sauver pendant ce moment-là, survécu, garder des emplois, garder de l'activité, etc. Donc, garder des points de croissance, limiter l'inflation, hein, qui est quand même plus limitée en France que dans d'autres pays européens notamment. Et donc voilà, critiquer pour critiquer, j'ai jamais trop aimé, mais même si je suis ouvert à dire qu'effectivement il y a beaucoup de boîtes qui peuvent avoir des abus de subventions en étant malin. Donc la première chose à avoir en tête, c'est, de toute façon on a commencé à parler là, ça fait déjà un moment qu'on parle sur les subventions, etc. Le premier financement d'une boîte, c'est ses clients. Ça, personne ne peut remettre en question ça. Le but d'une boîte, c'est d'être rentable ou de créer une valeur. propre pour se faire acheter. Parce que en biotech ou en autre, comme on l'a vu en deep tech, on n'a pas forcément le chiffre d'affaires et l'EBITDA qui va se générer, mais on a la valeur technologique, les brevets, toutes les valeurs même immatérielles, etc., dans ce qu'on va créer. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on a dit aussi tout à l'heure, il y a des besoins de capitaux, il y a des besoins de financement. Donc, l'entrepreneur qui nous écoute peut-être sur ces sujets de se dire voilà, on cherche des financements, faut pas aller à la course aux subventions et à la course au financement, à la course aux levées de fonds parce que c'est accessible, que c'est possible, etc., mais parce que ça va venir vraiment financer des étapes dans l'entreprise de croissance, de création, d'amélioration du produit, etc. Donc ça, c'est la première erreur à ne pas faire, c'est d'aller prendre de l'argent pour prendre de l'argent. Faut vraiment que ça vienne financer un produit, un projet. Et ensuite, petit conseil pour répondre à ta question, c'est de dire bah, combien de temps ça prend ce dossier ? Est-ce que moi, je suis compétent pour le faire ? Est-ce que je ne vais pas faire des erreurs ? Donc, un peu des questions à se poser en tant qu'entrepreneur par rapport à mon emploi du temps et au fait qu'il faut que je ménage ma monture aussi, parce que je ne vais pas faire ça le samedi soir jusqu'à 3 heures du mat, remplir des dossiers de financement qui sont parfois malheureusement pas très bien faits. Sur certains types de financements qui sont très chronophages, énergivores, qui demandent de se poser des questions. Et versus le temps, si je le délègue à quelqu'un, par exemple un lever ou Eldorado ou à d'autres qui vont m'aider à le faire et partager, parce que généralement c'est ce qui se fait, hein, c'est qu'on prend un pourcentage, un petit pourcentage des sommes qui sont trouvées. Bah là, c'est juste de voir par rapport au temps que moi je veux mettre sur mon produit et la recherche de mes clients, si j'arrive à m'entourer d'experts qui peuvent m'aider à le faire, ça a son sens quoi. Je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans le câble, mais deux exemples qu'on peut donner, tu vois, les aides de démarrage. Généralement, ça dépend vraiment des entrepreneurs, mais il y a des entrepreneurs qui peuvent très bien les faire tout seuls et parfois même c'est conseillé parce que ça va venir t'aider à pitcher ton projet, à le présenter,
mettre au clair tes idées,
voilà, prioriser. Tu vois, quand tu vas chercher des aides d'un organisme public ou même d'une banque, tu découpes en lots technologiques ton produit en disant bah voilà, on va financer tant, on va recruter telle personne, etc. Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut respecter à la lettre ce qui a été fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut non plus raconter des bobards ou partir à Dubaï faire du jet ski avec l'argent de la subvention. Sinon,
ça, normalement, on peut pas.
Ouais, ça.
Parce que tu vois, pour avoir fait des dossiers French Tech, pour French Tech, ils te demandent quand même, une fois que tu as passé la période, de donner un report de tes dépenses, tes dépenses, ça. Et après, les faire signer par, c'est pas un expert comptable.
Exactement. C'est la période de justificatif. Et c'est pour ça qu'aussi, c'est chronophage. C'est parce qu'après, quand t'es dirigeant, tu vois, t'as plus envie d'aller remplir les trucs. Donc, se faire aider, ça peut avoir son sens, mais il y en a beaucoup qui le font sans et qui arrivent. Alors après, tout mesurer le temps par rapport à ce qu'on a dit. Et même parfois sur des dossiers très complexes. Alors plus c'est complexe, plus c'est commun d'avoir des accompagnateurs qui vont venir t'aider à faire des projets parce que c'est très spécifique, parce que ça va prendre vraiment énormément de temps. Il y a des oraux de préparation, etc. Donc il y a un certain nombre de choses à anticiper. Mais j'ai rencontré des entrepreneurs qui ont eu ces financements tout seuls, hein, comme des grands aussi. Donc, vraiment, c'est chacun voit midi à sa porte. Ça a un coût aussi. Hein. Tu vois, si tu fais 600 000 euros de subvention, généralement, tu vas payer un lever 30-35 000 euros, voire un peu plus, qui va prendre sa part de rémunération au succès. Donc, ça a un certain coût. Mais voilà, faut le comparer par rapport au coût que tu n'auras pas dépensé à faire tous ces dossiers, à faire les allers-retours, les échanges avec les chargés d'affaires et tout. Donc, faut essayer de mesurer ça. Sauf et nous, on aide les entrepreneurs à le mesurer. En tout cas.
Sur ce que tu dis, ça me fait penser à deux choses que j'ai envie de souligner. Déjà, le premier, c'est que lever des fonds, avoir des subs, je pense que c'est important de le rappeler, c'est pas un succès. Et vraiment pas. Et tu vois, pour avoir passé 6 mois à Station F et pas avoir eu un super... J'en ai pas un super souvenir, tu vois. J'en ai vachement discuté avec Roxane Varza et tout, et c'est quelque chose qui est assez commun auprès de certains entrepreneurs qui sont passés par Station F. Même si c'est un super endroit, hein. Mais parce que il y a vachement de gens qui sont, j'ai fait 7 levées, j'ai eu 7 subs, donc j'ai réussi. J'ai réussi à être entrepreneur. Alors que faut vraiment le rappeler que c'est un outil et que c'est un outil qui est censé être mis au service de ta création de valeur et donc du fait de pouvoir vendre à des clients ou en tout cas de vraiment apporter de la valeur à l'économie et lever des fonds, c'est pas ou avoir des subs, c'est pas quelque chose pour apporter de la valeur. Et pour revenir un peu sur le business d'Eldorado, on est d'accord pour toi, un lever qui est pertinent, c'est un lever qui se rémunère au succès et qui prend pas du cash avant de taffer.
Bonne question. Alors si ça dépend. Déjà pour répondre à ton point, je suis entièrement d'accord. Moi, je connais, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écosystème depuis un moment, et c'est vrai que c'est devenu un peu fatigant ces dernières années. Hein. Je pense qu'on s'en est tous rendu compte. C'est allé un peu dans l'exubérance et dans le tirage dans tous les sens. Le pire, c'était LinkedIn, tu vois. Nous, Station F, moi, j'adore parce qu'on a nos bureaux là-bas. Ouais. Donc, on est très, très, très bien placé, on va dire. Et puis, on a aussi des salariés en province. Mais en tout cas, je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que ça a été un peu la course à qui a le plus gros communiqué de presse, qui est la licorne la plus rapide.
C'est vrai qu'on en parlait avec Charlie Perrault. Troisième épisode de ce podcast qui nous
je l'ai écouté un petit peu, avec Charlie. Bah Charlie connaît aussi très 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 bien finement pour avoir diffusé aussi en tant que média tout ce qui se passait dans cet écosystème avec voilà la course au communiqué de presse. Et ça a été vécu. En plus, tu mets en parallèle avec les fake it until you make it, l'âge d'or de The Family qui a un peu brouillé les cartes de ce que c'est qu'un succès d'une startup. Aller chercher de l'argent d'investisseurs, hein, faut le dire tout le temps, on peut dire plein de choses. Trouver 1 million d'euros auprès d'investisseurs, c'est beaucoup plus simple que de vendre 1 million d'euros. Ouais. Et faut se poser la question quand on entreprend, c'est est-ce qu'on veut lever pour lever et pour faire son post LinkedIn, etc.
Vanity metrics à fond.
Voilà. Donc,
ça, pourquoi un entrepreneur?
Ouais, exactement.
Finalement, ça rejoint ce sujet-ci.
Et ça a été un peu le là où l'écosystème s'est un peu pris les pieds dans le tapis, c'est sur cette forme de fame à lever des fonds et à ne pas se rappeler qu'en fait, faut d'abord créer de la valeur autrement que d'aller voir des investisseurs. Fêter des levées de fonds avec un énorme apéro, etc., ou une soirée. Je suis pas sûr, quoi. Vraiment, c'est là même, moi je dis, c'est là où commencent les emmerdes, quoi. C'est là où il va falloir mettre cet argent au travail. Et en faire tirer une valeur, et on l'oublie souvent.
Parce que c'est important de rappeler que quand tu lèves des fonds, tu lèves des fonds quand même sur des objectifs, sur un BP, et ce BP, il faut que tu le respectes, et que tu atteignes tes objectifs, autrement les investisseurs sont pas contents, ta valo, elle est rediscutée, tu rediscutes ta valo à la baisse, relever après, c'est compliqué. C'est important de le rappeler.
Exactement.
Parce que...
Exactement. Donc non, mais c'est bien que l'écosystème ait été à ce stade-là pour justement se recentrer, un peu se redire. Maintenant, les investisseurs qui sont arrivés aussi dans ces années Covid sont pas forcément des personnes qui étaient habituées, les nouveaux, hein, je parle, au capital risque et à toute cette forme de fame qu'il y a autour des startups. Et il faut recentrer le sujet en disant, lever des fonds, c'est un très bonne marque de confiance, mais si on lève des fonds, c'est les investisseurs, ce qu'ils veulent, c'est faire une plus-value, c'est une classe d'actifs. Donc, il faut revendre l'entreprise. Il y a du risque, donc il y a un potentiel revenu plus grand, mais il faut pas l'oublier. Le but, c'est de créer de la valeur pour être vendu. Donc ça, entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il y a eu des abus clairs. Débattre sur bootstrap versus levée de fonds, pour moi, c'est pas un débat.
Non,
pareil,
ça dépend du projet, voilà, ça dépend de la philosophie de l'entrepreneur.
Exactement, et puis voilà, j'adore les gens du bootstrap qui disent « Ah là là, je vous avais dit que les startups étaient surfinancées ». Enfin, c'est vraiment un peu ne pas connaître ce que c'est que l'écosystème de la levée de fonds et comparer des pommes et des oranges. C'est évident qu'il y a des abus, c'est évident qu'il y a des risques, c'est évident qu'il y a des gros échecs aussi, des boîtes qui ont été très financées et qui vont au tapis, c'est le propre. Et après, faut corriger le tir, le faire évoluer. Il y a des générations d'entrepreneurs qui sont qui apprennent de ce qui se passe, de ce qu'ils ont vu, de l'écosystème, des accompagnateurs, des fonds, des investisseurs, hein, qui sont là même depuis plus longtemps, 20, 25 ans, et qui vont continuer à faire grandir cet écosystème. Donc ça, c'est le point. Ensuite, sur quand t'es accompagné, ce que tu payes, qu'est-ce que tu payes ? Nous, on a la plateforme qui met en relation avec des invests. Ça, c'est une partie où on n'intervient pas. C'est vraiment marketplace du financement. Il y a 4500 dossiers par an qui transitent et des investisseurs qui se connectent avec des startups. Après, nous, on les accompagne sur tous les financements stratégiques et de levée de fonds non dilutifs notamment. Et là-dessus, il y a deux cas de figure. Il y a toujours un travail en amont à faire. Et il y a un BFR assez long, en fait, puisque nous, quand on se rémunère au succès, on attend que les sommes soient décaissées, et parfois c'est administrativement assez long, pour facturer, et puis après il y a de nouveau 30 jours d'encaissement. Donc pour éviter qu'il y ait une trop grosse tension sur ce BFR, et parce que parfois il y a beaucoup de travail en amont qui est nécessaire, on se met d'accord aussi avec les entrepreneurs pour avoir un retainer, donc un retainer fee. La particularité qu'on a chez Eldorado, c'est qu'on le déduit des success fees à la fin. Okay. Donc on le propose généralement pour les boîtes dans le cas c'est adapté. Et puis on va pas demander un retainer avec une startup qui a 15 000 euros de capital. Vraiment, si tu lèves 4 millions et que tu fais un dossier pour aller chercher 2 millions, là supplémentaire en prêt, etc., c'est légitime de demander une avance sur le côté. Après, c'est du cas par cas. Nous, on est très entrepreneurs, proches des entrepreneurs et de leurs problématiques, donc on est très ouvert à ces sujets-là. Mais, bon.
Mais donc, si par exemple, une startup là nous écoute et est en discussion avec un lover et que le lover lui dit bah écoute, tu me payes tant et moi j'essaye de te lever ça et puis on voit après, red flag ou pas red flag?
Pas forcément red flag, c'est pas ce qu'il faut regarder en premier. Okay. Surtout que moi sur les prix, je le dis souvent, je suis comme Darty, moi je m'aligne à la concurrence. Si tu trouves moins cher ailleurs, on s'aligne. Bon, tout dépend, frère, vraiment après, il y a aussi des...
Il y a à boire et à manger.
Voilà, il y a à boire et à manger. Le lever de fonds qui a jamais fait ça et qui te propose un taux dérisoire, bon bah tu vas te planter avec lui et personne ne va recevoir la subvention ou le prêt et c'est dommage. Ce qu'il faut regarder, c'est la réputation avant tout. Donc faire du peer review, d'avoir d'autres clients qui te disent comment ils m'ont accompagné, etc. Se renseigner vraiment, d'ailleurs sur tout prestataire ou partenaire, hein, que ce soit avocat, expert comptable, assureur, mutualiste ou autre, il faut avoir du feedback de personnes qui ont travaillé dessus. Faut pas croire ce qu'on vous dit dans les pitchs commerciaux. Et ensuite, faut négocier. Entre entrepreneur, il doit négocier. Nous aussi, on est entrepreneur aussi dans Eldorado. Donc nous aussi, on va négocier par rapport au temps qu'on va passer, au potentiel gain, aux fonds propres de l'entreprise, à la répartition des tâches qui est faite. Et là, on s'adapte. Donc c'est pas forcément red flag. Et puis c'est une forme d'engagement aussi. C'est-à-dire que voilà, tu vois, nous on prend un peu d'argent au début, donc alors c'est pas énorme, hein, c'est entre 500 et 2000 euros généralement, parfois un peu plus sur les très très gros dossiers.
Mais c'est de l'argent que tu prends, mais que tu rembourses si c'est un fail ou pas.
Oui. Ok. Aussi. Ouais, voilà. Ouais.
Nous, mais ça c'est important de le souligner.
Ouais, complètement. En fait, ça dépend. Pareil, ça dépend dans quel format, mais généralement c'est le cas. Ça se fait aussi, ça se négocie, parce que parfois il y a un fort taux de risque. Par exemple, les concours, les appels à projets. Là, on rembourse pas parce que t'as forcément un côté concours, un côté aléatoire de l'obtention de l'aide. Mais en tout cas, il y a pas de religion fixe sur le sujet. Faut s'adapter à tout ce qu'on a dit là. Moi, je me méfie de ceux qui font jamais de retainer pour aller essayer de choper un max de clients parce que c'est des grosses machines et que après tu vas être au bureau K2B12 qui va te faire ton dossier. Tu sais même pas qui c'est. T'as une boîte mail générique stagiaire 123 je ne vais pas dire un nom de concurrent.com. Mais voilà, c'est un peu le sujet. C'est une relation que tu dois. C'est un conseiller financement. Nous, on est très proche des entrepreneurs qu'on accompagne. Donc c'est aussi une relation de conseil et de proximité. C'est pas juste des faiseurs de dossiers et des robots qui vont faire des dossiers. C'est aussi contextualiser le financement par rapport aux besoins, par rapport au guichet unique qu'on représente qui est equity, levée de fonds et banque et non dilutif, donc pour faire quelque chose de plus adapté, quoi.
Avant de repasser aux subventions, t'as parlé d'un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne en 40 secondes. Tu négocies tout, toi, ou pas?
Moi, je négocie tout, ouais.
Non, mais je trouve
c'est mon père qui m'a appris ça.
Voilà, je trouve que c'est hyper important de dire parce que moi aussi je négocie tout. Les Français me prennent des fois souvent pour un taré.
Ouais.
Mais le nombre d'entrepreneurs que je rencontre qui négocient rien et qui sont pas là à essayer de se démarquer, de pas se faire avoir, c'est quand même un truc de ouf.
Il faut négocier tout. Moi, mon père, il va à la Fnac acheter une télé, il négocie. Donc, alors que on lui dit non, bah monsieur,
je suis
désolé. Mais vraiment, c'est pas pour faire le côté marchand de tapis parce que j'aime pas en plus cette expression, mais le côté si on ne tente rien, on n'a rien quelque part. Après, une négociation dans le business, tout est affaire de négociation. Je pense que c'est pas être innovant que de dire ça, même avec vos clients et avec vos autres prestataires. Surtout au début, quand on est une startup, être frugal, c'est pas un gros mot. Être intelligent dans la manière dont on dépense l'argent, au contraire, c'est quelque chose de louable. On fait attention à son argent et on négocie. Pareil, dans le sens inverse, c'est qu'on donne jamais quelque chose si on te l'a pas demandé, tu vois. C'est un peu dans le sens inverse. C'est si quelqu'un négocie pas, bah tant pis aussi pour lui. Et voilà, il y a pas de question de sujet d'arnaque. Mais négocier, c'est aussi rentrer dans une relation à dire c'est quoi la valeur que tu vas m'apporter, quel que soit le partenaire, le prestataire ou le client, par rapport à ce que tu me vends et comment je on peut l'évaluer et on peut rentrer en contact pour trouver un accord, quoi.
Et de la même manière, très rapidement, est-ce que tu penses que justement, pour être un bon entrepreneur, il faut également savoir s'entourer et se faire accompagner par les bonnes personnes et justement apprendre à identifier ces bonnes personnes? Mmh. Quand tu parlais par exemple des levers et ces histoires de commissions.
C'est levers. Les meilleurs entrepreneurs sont ceux qui recrutent le mieux, sont ceux qui lèvent le mieux avec les bonnes personnes et qui sont bien équipés. Après, on a tous des erreurs de partenaires, de prestataires. Ouais, il y a des entrepreneurs à talent, c'est le propre. Hein. Il y en a beaucoup sur même un prestataire vidéo ou un podcasteur. Voilà, enfin, tu peux toujours avoir des mauvaises surprises. Mais une des qualités des entrepreneurs qu'on peut essayer de chercher avec la résilience et l'anticipation, qui pour moi sont les deux autres qualités, c'est vraiment la capacité de bien s'entourer.
Mmh. Bah, écoute, super pour cette partie. On va essayer d'accélérer un peu pour revenir un peu au cœur du sujet.
Ouais, je suis pas
bien. Non, mais c'est bien. C'est bien parce qu'en fait, on aborde des sujets que moi, j'ai envie d'aborder depuis très, très longtemps et qu'on prend pas le temps d'aborder parce que ça s'y prête pas. Et je pense que t'es une des meilleures personnes pour aborder ce sujet-ci parce que hyper plugé dans l'écosystème, tu vois, tout ça. Je sais que on est aussi aligné sur plusieurs de ces sujets-ci et ces sujets qui sont jamais abordés. Donc, je trouve que c'est aussi une bonne occasion. On a vendu un peu les subventions en disant que c'était tout beau, tout rose. Est-ce que ça a des inconvénients d'avoir des subventions ou pas?
Non, alors j'en vois pas, sauf si tu les rembourses pas. Disons que le seul inconvénient, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si tu t'y habitues trop et que tu crois que c'est l'argent gratuit, il tombe des arbres, etc. Tu peux avoir un mindset pas forcément bon. Un des investisseurs que j'admire le plus dans l'écosystème, qui est Jean-Charles Boredon, okay. Pardon, j'ai oublié son prénom, mais Jean-Charles Boredon.
Ouais. Si, Jean-Charles.
Voilà. Ouais. Ouais, j'ai un peu la honte, mais j'ai oublié, excuse-moi. Et dit lui vraiment. Jean-Christophe Chamboredon, voilà. Désolé, JC, tu vois, je savais que c'était JC, c'était pas mal. C'est Jean-Charles.
C'est déjà
bon, en tout cas, quand on suit ce qu'il dit sur... en plus, c'est un vrai vieux briscard de l'écosystème. C'est un peu, on le disait,
il
même
était
le
là, c'est grâce à lui qu'existe France Digital, par exemple.
Voilà, exactement. Père fondateur, le parrain, ce qu'on veut. Non, honnêtement, ce que j'aime bien dans son discours, c'est vraiment de parler de ce qui s'appelle le capital efficiency. C'est-à-dire un euro de capital investi, prêté, subventionné dans une entreprise, comment il va générer de la valeur. Donc généralement, c'est un euro de chiffre d'affaires, mais ça peut être aussi de la valeur technologique, de la valeur humaine, de la valeur économique, etc. Et quand on a une subvention, pour répondre à ta question, c'est vraiment comment je vais la dépenser le mieux possible. Alors, évidemment, on fait des erreurs quand on est entrepreneur. Évidemment, on respecte jamais les BP, surtout dans les 3 à 4 premières années. C'est même fait pour, quelque part. Mais il faut pas non plus, voilà, si on force le trait, acheter des baby food, des trucs, etc. C'est très bien, parce que c'était, rétention des talents, machin, etc. Ok, ça, on a compris. Je pense qu'il y a d'autres choses qui peuvent être faites pour mieux s'adapter. Ça fait partie aussi des évolutions de l'écosystème qu'on peut voir ces dernières années. Mais le capital efficiency est clé. Et quand on donne, autre exemple de Jean-Christophe, c'est 1000 euros d'argent de poche à un enfant. Si tu donnes 100 euros à un autre, tu vas voir qui l'utilise le mieux, l'argent. Et c'est un peu la même logique sur les subventions, sur les prêts et sur les levées de fonds, hein, pour regrouper tout. C'est vraiment comment bien dépenser cet argent pour lui faire la mettre au travail la mieux possible pour l'entreprise.
Est-ce que tu penses qu'on manque d'éducation chez les entrepreneurs sur ce sujet-là?
De moins en moins, mais ouais, ça a été aussi un sujet. Hein. Honnêtement, moi, ça m'a pas trop choqué de la hausse des valorisations des licornes, etc. Moi, une des choses qui m'a choqué ces dernières années, ces 2-3 dernières années, peu de gens en parlent, c'est les montants qui ont été levés et les montants par des entrepreneurs qui n'avaient jamais dirigé de boîte. La confiance qui a été donnée. Alors, ça veut pas dire que c'était des mauvaises personnes. Au contraire, ça s'apprend si t'es bien entouré. Sauf qu'il y a eu tellement de deals, tellement de la course, tellement de l'accélération, la course à qui va...
Il y avait de l'argent aussi.
Ouais, il y avait beaucoup d'argent. On était payé pour investir dans cette époque-là. Donc, c'était forcément une magnifique période. Mais il y a une différence entre donner 40 millions à quelqu'un qui a... alors, on va pas parler d'âge, mais qui a plutôt...
Ouais, qui a déjà fait une boîte, qui a déjà monté des trucs, qui a déjà
vu les galères, levé, etc. Et encore une fois, je fais pas d'anti-jeunisme ou quoi. Parce que moi-même, je l'ai été et j'ai eu la chance de qu'on me donne de la confiance quand j'étais jeune, même s'il n'y avait pas trop de levée de fonds lors de mes premières startups. Mais les sommes données étaient vraiment colossal. Et peut-être les séquencer, ça aurait été plus intelligent dans le terme de bah, on va voir étape par étape, quoi, et on va séquencer dans les étapes. Donc,
Et peut-être pour rebondir avant de passer à d'autres types de financement sur ce que tu disais sur le capital efficiency, c'est vrai que tu le mentionnais également tout à l'heure, le meilleur moyen en tout cas de, pour une entreprise d'avoir de l'argent, c'est d'abord de vendre. Et est-ce que tu ne penses pas qu'il y a aussi un gros travail à faire déjà en interne avant de chercher à lever et à trouver beaucoup de financement sur la manière dont on peut gérer son argent et en tout cas des améliorations comme ça en interne? Est-ce que c'est quelque chose qui va être important?
Ouais, c'est, ça rejoint un peu ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire que quand tu as 10 millions sur ton compte en banque mais que tu n'as même pas de BP, et c'est arrivé parfois, hein, honnêtement, et que t'es jeune parisien, que t'aimes bien faire la fête, que t'as tous tes potes qui ont aussi levé, enfin bon, je veux pas encore une fois
un peu les traits, mais ouais,
tu voyais ce que je veux dire, c'est tout que et que t'as l'impression que c'est un succès parce que tu fais un post LinkedIn, tu récoltes 6000 likes et que tout le monde te félicite. Bah là ouais, c'est, en fait c'est pas ça lever des fonds. En fait lever des fonds c'est comment les mettre, et puis même avant, c'est quoi la trajectoire stratégique financière de ton entreprise, et ça elle est tout à fait liée à ta stratégie d'entreprise elle-même qui évolue. Mais est-ce que je veux être une licorne, est-ce que je veux vendre en France, est-ce que c'est un produit, est-ce que c'est du hardware, c'est quoi mes coûts de structure, c'est quoi mon BFR, d'avoir ces notions très très proches. Limite moi les bons entrepreneurs, un autre avantage moi que je vois, c'est les entrepreneurs qui connaissent combien de cash ils ont en banque sans que tu leur demandes, tu vois, enfin tu leur demandes là tout de suite t'as combien de cash en banque.
C'est un bon test, tu penses?
Ouais, c'est un très bon test, honnêtement. Okay. C'est un très bon test.
Tu peux aussi le demander aux gens en perso, souvent les meilleurs entrepreneurs le savent aussi en perso combien ils ont. Hein.
Ouais, exactement. Ouais. Enfin, c'est un signe de je suis, ouais. Je regarde tous les matins limite. Ouais. Autre signe aussi, c'est quand ton dernier reporting investisseur.
Ouais.
Je l'ai pas envoyé depuis décembre là, mais je vais le faire là cet été tranquille. Ouais. Le reporting, Thibaut Elzière, pour citer un autre écosystème, un autre personnalité très connue de l'écosystème, lui, il dit que les meilleures boîtes sont celles qui lui envoient le plus de reporting. Et je suis assez d'accord avec ça. Donc, sans en envoyer tous les jours, etc. Mais avoir un feed WhatsApp ou Telegram, et puis c'est facile d'automatiser maintenant. Il y a même des solutions qui l'automatisent. Il y a même ChatGPT, je pense, qui peut te
chercher à donner et l'envoyer, quoi.
Voilà. Ouais. Mais au moins de la mesurer, de l'avoir en tête, etc. Et cette éducation financière, sans avoir fait un master 2 de finance, c'est juste d'être bon gestionnaire. En fait, d'être ambitieux et avoir une très grosse vision, c'est important, mais ça devient aussi important que d'être bon gestionnaire quelque part. Et après on peut faire il peut y avoir des échecs, mais ça va pas forcément minimiser les échecs, mais ça va minimiser les comportements qui peuvent être inadaptés par rapport aux sommes qu'on reçoit. Ça veut pas dire qu'il faut pas dépenser, parce que si on investit c'est pour dépenser cet argent. Il y a des entre-deux à trouver et des évolutions qui se font.
C'est vrai que quand on soit 10 millions on peut avoir envie d'en cramer deux directement dans du marketing sans savoir trop pourquoi ou choses comme
ouais,
ça.
Ouais, ou dans des GAFAM, quoi. Tu vois, ouais. Tu vas à boum.
Masse de full de Facebook ads sans savoir pourquoi.
Ouais, moi, je te dis, pareil, hein, j'ai toujours pris le métro, mais ces 5 dernières années, une pub sur deux, c'est start-up, quoi. Dans le métro à Paris. Alors, je sais pas en province, mais c'est assez marquant aussi de voir.
On le voit aussi sur LinkedIn.
Ouais, sur LinkedIn, même pub télé, etc. C'est un signe que l'écosystème a grandi, hein, aussi. Il faut pas non plus s'en cacher. Il y a plus d'emplois, plus d'influence des technologies qui sont utilisées par énormément de Françaises et Français au quotidien. Pourquoi j'utilise cet argent et le capital efficiency. Si je mets 2 millions dans des ads, comment je les mesure, quoi? Ouais. Où est-ce que j'y vais?
Pourquoi je le fais et quel résultat attendu? Ouais.
Juste, j'en profite très rapidement. Souvent, on dit que faire un BP, ça sert à rien. Pourtant, moi, je suis un fervent défenseur du BP. Pourquoi faut faire un BP, pas day one, mais presque?
Ah, on est deux. C'est le premier doc à faire. Dans une startup. Enfin, dans une entreprise, en fait. Même pas un deck. Faire un beau site, ouais. Avoir une belle marque, un beau logo, c'est hyper facile, ouais. Franchement. Ouais. C'est le plus fun, ouais. Mais c'est le plus facile. Et généralement, le moins fun, c'est le plus difficile. Aller chercher de l'argent, trouver des clients, faire des pitchs commerciaux, il faut plus se brûler, enfin, ça prend du temps. Et avoir un BP, c'est plus difficile. Donc vraiment.
Il sert à quoi le BP au début? Parce que tu l'as dit, on ne le respecte jamais, le BP au début.
Il sert à donner une trajectoire par rapport à ta stratégie de la boîte. Tu vois, je disais, est-ce que tu veux être une licorne, un hardware, etc. Et du coup, tu adaptes ta vision financière par rapport à ta stratégie. C'est-à-dire que si tu fais un business en France, dans des marketplaces, de seconde main, bah tu vas pas avoir la trajectoire de financement d'une licorne, c'est-à-dire que tu vas jamais aller lever auprès de fonds en série C. Et inversement, quand tu fais de la deep tech, on en parlait tout à l'heure, t'as un continuum de financement qui va être différent à adapter dans ton BP. Et de l'avoir en point de départ, déjà ça te montre comment tu gagnes de l'argent et quand et à quel moment, tu vois, et quelles ressources t'as besoin pour. Tu fais tes théories, tu fais des hypothèses, tu testes, t'es avec tes associés, ben, tu te mets autour de la table, tu dis, non, mais attends, si on recrute telle personne, ouais, là, on recrute. Alors, beaucoup, pourquoi ça s'est jamais vérifié? Parce que beaucoup sont là, voilà, là, et puis là, on va avoir tant d'argent, donc là, on va pouvoir faire ça, etc. Et puis, en fait, les temps sont longs. Parfois, il y a des bonnes surprises, mais qu'on anticipe aussi mal que les mauvaises. Et puis, faire de l'entrepreneuriat, c'est d'aller de mauvaise surprise en mauvaise surprise aussi. Donc, les traduire ensuite et adapter les business plans, c'est très important au départ. Et aujourd'hui même, on peut parler de là en ce moment, hein, tu vois, là on est année 2023, c'est une année très challenging pour les entrepreneurs, parce qu'il y a moins de fonds, il y a moins d'accès au capital, que les prêts sont plus chers, hein, les taux sont remontés maintenant vers autour de 4% au moment où on parle. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il faut être très proche de son argent, de sa trésorerie. Et là vraiment, j'encourage les entrepreneurs à être tous les jours le BP ouvert. Alors c'est stressant, c'est angoissant parfois, mais c'est un peu anxiogène. Mais en fait, en vrai, ça t'apporte une sorte de tranquillité. Ça bouge beaucoup, mais d'avoir à la fois le vision court terme, c'est semaine à la semaine. Vision très court terme. Court terme, c'est à 2 mois. Et moyen terme, c'est à 6 mois, quoi, tu vois, dans la typologie de temps. Et le but aujourd'hui, c'est d'être robuste, d'aller vers des modèles qui sont à la fois en progression sur les indicateurs de performance en très forte croissance, mais aussi d'avoir quelque chose qui te fait durer, sans parler de rentabilité, parce que maintenant tout le monde a parlé de profitabilité, d'EBITDA dès le lendemain entre guillemets, mais c'est un savant mélange à avoir entre les deux. Faut quelque part essayer de prouver qu'on peut se passer de cet argent capitalistique qui a pu être assez facilement donné.
Donc pour résumer ce point, le BP ça permet avant tout de structurer ses idées, de savoir où est-ce que tu vas et comment tu y vas. Et d'ailleurs là-dessus, si vous voulez, on sort un report tous les mois sur The Ticking Gallery où franchement c'est à cœur ouvert. Hein. Moi je l'écris entre les 28 et les 29 de chaque mois en fonction de quel jour ça tombe et de notre actu. Et on écrit exactement qu'est-ce qu'on a fait, quand, comment et où est-ce qu'on va. Et on peut voir qu'au départ et maintenant l'ambition n'a strictement rien à voir. On a pivoté 40 fois.
C'est rassurant aussi.
c'est ça.
Bien. C'est de la dynamisme.
Pour finir sur le truc, sur la partie subvention, est-ce que t'aurais 2-3 conseils à donner pour avoir facilement des subventions?
Alors, première chose, c'est pour tous les types de financement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une des qualités à avoir, je pense, quand on est entrepreneur, c'est l'anticipation. Donc, anticiper, ça veut dire regarder, même avant la création de la boîte, après, dans la première année, à quoi je suis éligible, se faire aider peut-être même pour ça, etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est qui est sur le deuxième conseil, c'est ça, tu me demandais des conseils, quoi, ouais. L'obtention de subvention. Pareil, anticiper le temps que ça va prendre et bien le plugger dans le business plan, dans son agenda, en disant voilà, c'est plutôt des temps longs, hein. À Paris c'est plus long qu'ailleurs parce qu'il y a plus de dossiers, on peut mettre 3 à 6 mois à l'avoir. Donc et puis le troisième, c'est vraiment ne pas faire ça trop rapidement en dessous de bras, parce que c'est une possibilité de pas l'avoir. C'est pas automatique, hein. C'est pas juste un bouton et BPI te fait un virement. Il y a un dossier à faire, il y a des questions qui sont posées, il y a des justificatifs à donner. Du coup, il faut pas faire ça le week-end.
Du coup, pour rebondir sur ce point-ci, c'est aussi important. Dis-moi ce que t'en penses, mais moi, de ce que j'ai vu, c'est d'avoir le bon vocabulaire au bon endroit, au bon moment, et donc de savoir de quoi tu parles. Et donc, si tu viens pas de cet écosystème, ce qui arrive et ce qui est une très, très, très bonne chose, rencontrer des gens de cet écosystème, avoir un conseiller BPI, qui sont gratos d'ailleurs, pour avoir le bon mot au bon endroit et donc avoir la légitimité sur ce que tu dis.
Exactement. Ils sont pas gratos.
Ah
parce
ouais
qu'ils sont payés par BPI et BPI oui est financé par tes impôts.
C'est vrai. Mais en tant qu'entrepreneur, tu fais pas. Ouais, mais c'est vrai que c'est important de le souligner parce que
et
ils sont pas là
pour
faire.
Tu fais bien de le faire. Ouais. C'est pas juste des formalistes qui mettent un coup de tampon sur des dossiers. C'est des personnes. Alors, on peut avoir des personnes plus ou moins expérimentées parce qu'il y a un turnover existant aussi à BPI. Mais c'est des personnes qui sont censées aussi te dire quel produit le plus adapté, qui notamment les chargés d'instruction qui vont t'aider. Donc complètement, c'est un très bon réflexe à avoir et faut décrocher son tel quoi. Pareil avec les banques hein, aussi.
Attends. Je me permets d'interrompre ton écoute 5 secondes pour te rappeler de t'abonner et de mettre 5 étoiles à ce podcast sur toutes tes plateformes préférées. C'est reparti.
Tu fais une transition toute faite sur les prêts bancaires. Là, il y en a un paquet. C'est quoi les différentes formes de prêts bancaires et à quoi ça sert?
Les banques, c'est ça, traditionnellement, ça n'a pas été les meilleurs amis des startups, puisque en fait, hein, les banques, je dis souvent que c'est un peu comme le casino, quoi. C'est ils essayent de rarement perdre. Elles se rémunèrent sur le remboursement du prêt et les intérêts qui sont liés. Et donc, elles vont essayer d'investir dans des entreprises qui sont très fortement susceptibles de rembourser le prêt avec les intérêts. Donc, les startups, tu vois, par définition, l'incertitude et le risque qui sont mis, c'est très risqué, quoi. Je pense en classe d'actifs, à part les crypto-monnaies, t'as pas plus risqué que les startups. Ceci dit, depuis le Covid, il y a un double financement, un double phénomène qui s'est lancé dans les banques, c'est les banques se sont mis à faire des PGE, donc des prêts garantis État, donc se sont rapprochées de cette population. Et elles ont commencé à s'équiper de cellules innovation, toutes les grandes banques. Hein. Donc nous, tu vois, on a 18 banques partenaires et ils ont toutes chargées d'études d'innovation qui apprennent l'entrepreneuriat et les startups, comment ça fonctionne, etc. Elles sont quand même venues par l'appât du gain. L'appât du gain étant beaucoup d'argent en capital.
Des beaux succès,
du storytelling, des possibilités aussi, pourquoi pas, de se rapprocher de fintech. Voilà, elles sont pas venues par
charité.
Voilà, exactement, les banques, c'est jamais par hasard hein, donc dans le sujet. En revanche, quand elles sont venues, c'était sur un taux qui était très faible. Les taux ont augmenté, alors beaucoup d'entrepreneurs ont commencé leur boîte à partir de 2017, donc pensaient que ça a toujours été à 1%, mais évidemment ça a été aussi plus élevé avec l'inflation, les conditions macro, etc., tout ce qui est lié par rapport au taux bancaire. Et du coup, c'est un peu plus cher et il faut, tu parlais de faire un BP, ça veut dire anticiper c'est quoi le remboursement d'un prêt, combien ça va me coûter, comment je calcule un échéancier bancaire, etc. Donc, en tout cas, ce qui est important de faire, le premier conseil, c'est de maîtriser ces données financières parce que tu vas parler à des financiers. Pareil avec la BPI quelque part, mais encore plus avec les banques parce qu'elles sont indépendantes. Et ou pas d'ailleurs certaines, mais elles vont demander des contre-garanties, donc il faut comprendre ces mécanismes. Est-ce que BPI peut me contre-garantir, pas prendre de caution personnelle, ça c'est un des conditions un petit peu de base puisque tu prends déjà tellement de risques quand tu crées ton entreprise, éviter de savoir cette épée de Damoclès en cas d'échec du projet. Le mieux c'est d'avoir une garantie. D'ailleurs, il y a tellement de sources de financement en France que on peut quand même, là, on n'a pas parlé forcément de ça, mais du risque du dirigeant ou de la dirigeante, d'essayer de le minimiser sur les aspects financiers, c'est quand même hyper important pour favoriser la création, la dérisquer, et puis la création d'emplois, etc., qui vont s'en suivre. Donc ça, c'est un autre conseil. Et puis l'autre conseil, c'est pareil qu'un peu BPI, il faut décrocher son tel, il faut appeler son chargé d'affaires personnel, sa banque, ou professionnel. Donc on peut aller dans une banque en ligne, hein, mais voilà.
Mais les banques en ligne, il y en a qui peuvent faire des crédits aujourd'hui. Alors, parce qu'il y a October qui a.
Voilà, mais c'est pas mais forcément une banque en ligne. C'est un organisme de crédit justement. Les banques en ligne type Conto, etc., ne font pas d'organisme de.
Elles n'ont pas l'accréditation.
Exactement. Encore. Bientôt. Voilà. Bientôt. Ça arrive. Exactement. on demandera à Cyril et puis à Alexandre.
Ouais.
Et puis comment.
Cyril de Lydia.
Voilà, exactement. Ouais. Donc on verra ces prochaines années, mais en tout cas là, les banques en ligne, donc il y a eu ça pendant le Covid, c'est-à-dire que t'as beaucoup d'entrepreneurs qui étaient que en banque en ligne, et pour ouvrir un crédit il faut se déplacer en banque et personne pouvait se déplacer parce qu'on était confinés, et du coup des entrepreneurs se retrouvaient un petit peu dans la panade parce qu'elles pouvaient pas avoir ce fameux PGE qui pouvait justement leur donner une respiration. Donc, se renseigner, les appeler, leur dire, bah voilà, j'ai créé ma boîte, j'ai levé des fonds, j'ai mes premiers clients, j'ai tel brevet, etc. Parce qu'il y a des dispositifs dans ces banques qui peuvent être adaptés à certaines parties du développement de la boîte et à certains moments du développement. Et si on n'appelle pas, elles vont pas venir nous voir. C'est-à-dire qu'elles font beaucoup de communication. Donc, il faut rester proche de son banquier ou de sa banquière sans les appeler toutes les semaines, hein, parce que sinon, ça veut dire au harcèlement bancaire. Je sais pas si ça existe, mais peut-être dans le sens inverse.
Ouais, je pense ouais. plutôt ça. Hein.
Et puis voilà quoi. Donc, okay. je dirais ça fait partie des conseils de base pour essayer d'aller débloquer déjà un financement bancaire.
Et pour des deep tech, les banques, tu penses que ça peut passer? Au vu du niveau de risque et
c'est difficile parce que les banques
expliquer déjà le projet, c'est ça, hein?
Exactement. Et les banques, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est elles vont venir à accompagner une phase de commercialisation, notamment.
Ouais.
Ce qu'on l'a dit tout à l'heure, tu vois, les deep tech, c'est généralement un petit peu décalé, et une phase de rapprochement de la rentabilité ou une phase de développement qui ramène à une croissance du chiffre d'affaires telle que l'intégration dans le business plan du remboursement peut être évaluée, imaginée et réaliste. Mais une deep tech, c'est plus compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il existe aussi autant de financements non dilutifs, publics, européens, qui sont
existants. Un peu plus. Ouais. Et concernant les prêts, de manière plus générale, est-ce qu'il y a des stades pour lesquels c'est plus intéressant ou même des cas d'usage pour lesquels c'est plus pertinent que d'optique de financement, tu trouves?
Ouais, ça rejoint la question d'avance. C'est la meilleure phase, c'est la phase de commercialisation et la phase de croissance de la commercialisation. L'autre phase qui est intéressante pour les banques, c'est la phase post-levée de fonds, en disant bah nous on va venir compléter la levée de fonds en faisant ce qu'on appelle un effet de levier. Donc on va augmenter, faire un leverage qu'on appelle sur la levée de fonds des montants investis. Tu vois, tu as levé 2 millions d'euros avec des investisseurs. Généralement, tu peux aller chercher 500, 600, 700 000 euros avec BPI de prêt.
Ça va permettre de se dérisquer, c'est ça? Elle se cache un peu. Enfin, elle voit qu'il y a une validation.
Exactement. Ouais. Il y a des investisseurs professionnels, des entrepreneurs. Enfin, ça passe en comité. C'est quoi, qui sont les entrepreneurs qui sont dans ce projet? Est-ce qu'ils ont fait des boîtes avant? Est-ce qu'ils connaissent le secteur? Qui sont leurs investisseurs? Est-ce que BPI met? Et ceinture bretelle, est-ce que BPI me garantit mon prêt à moi?
Ça, BPI le fait?
Ouais, BPI le fait, ouais. Okay. Beaucoup, ouais. Et d'autres organismes, hein, le FEI et même des organismes indépendants, qui vont venir contre-garantir les prêts, parfois à 100%, enfin, c'est rare, mais surtout une partie des prêts qui sont contre-garantis, qui permettent de débloquer les assiettes. Là encore, hein, ceinture bretelle, je vais pas me faire des amis chez les banquiers, mais généralement, la différence, c'est que BPI, elle donne ce qu'on appelle un différé de remboursement. C'est-à-dire qu'on rembourse pas pendant un moment. Alors que les banques, tu rembourses day one. Et en fait, quand t'as levé 2 millions et que t'as 600 000 euros de BPI et qu'une banque te met 300 000 euros contre garantie à 50%, elle perdra jamais son argent. Parce que, en fait, les deux premières années, bah, tu as l'argent pour lui rembourser. Si t'échoues, bah, ils ont déjà eu la moitié de rembourser et puis ensuite, ils vont chercher leur contre garantie derrière. Donc, en fait, il y a des banques qui prennent plus de risques, hein. Je veux pas faire de généralité. Mais faut savoir utiliser les banques pour ce quoi elles sont bonnes, c'est sur ces aspects-là. Avoir un crédit bancaire aussi, c'est la possibilité d'en avoir d'autres après. Si on passe sur une phase plutôt de rentabilité, d'accélération commerciale, qu'on a du stock à financer, qu'on a de l'immatériel, c'est plus dur à financer, mais qu'on a du développement de produits, des lignes de produits, on parlait du hardware, etc. Ça peut être intéressant sur ces phases-là, quoi.
Donc, si t'as un grand conseil à donner pour avoir un prêt, c'est de parler avec son banquier day one, dire que tu montes une boîte, qu'est-ce que tu fais, et le tenir informé tous les mois, tous les deux mois ou tous les trois mois. Voilà, on en est là, éventuellement, ne serait-ce l'impliquer dans le truc émotionnellement, ça peut être intéressant. Tu vois, non, mais qui participe à l'aventure, tu vois, qui se sent engagé dans le truc.
Exactement.
Et le jour où t'as besoin de financement, tu le tiens au courant et tu lui demandes si éventuellement il peut donner un coup de main, si jamais il a quelque chose qui pourrait intéresser.
Exactement.
Ok, tu aurais d'autres conseils ou pas?
À la création, il peut y avoir aussi, pour constituer ses fonds propres, parfois d'avoir un prêt personnel pour avoir de l'argent au capital, peut-être un
levier. Ça, tu le conseilles? Ça, donc, t'engages ta responsabilité perso dès le début, quoi.
Ouais, voilà. Alors, le mieux, c'est de le faire à travers des réseaux comme le réseau Entreprendre, réseau Initiative, Wilco, Rise, etc., qui permettent d'avoir ce qu'on appelle des prêts d'honneur.
Ouais.
Et le mieux, c'est que ça a des risques et que tu fais travailler un organisme bancaire qui va venir t'aider à apporter une partie capitalistique pour ensuite aller chercher une subvention et avoir ce mix entre les financements. C'est ça qui est important à retenir aussi, c'est que les financements se complètent entre eux, quoi.
Est-ce qu'il y a un gros inconvénient au prêt autre que le fait de devoir le rembourser?
Déjà pas mal, ouais. Alors,
c'est et ça, le fait que ça arrive. Et le fait qu'il faut le rembourser day one.
Ouais, et qui coûte de plus en plus d'argent, entre guillemets, enfin, qui est calé sur l'inflation. C'est que ça peut être ouais, qu'est-ce qu'on pourrait dire, ça peut être assez déceptif dans le sens où parfois ça peut capoter au dernier moment. Bon, bah un peu comme une levée de fonds, tu me diras, donc tu passes du temps dessus et que ça capote. Généralement aussi il y a des pools bancaires qui se constituent, c'est-à-dire que tu as 1, 2, 3, 4 banques qui se mettent pour faire le tour de table. Peut-être ce qui peut être à regarder, c'est les relations bancaires que tu peux avoir après. T'en as qui sont beaucoup plus obtus, complexes. T'as des banques qui ont de la compliance à tous les étages et du coup il faut envoyer des milliards de documents administratifs. Donc ça peut être chronophage comme ça peut être assez simple. Donc c'est.
Est-ce que le taux d'intérêt auquel tu fais ton crédit doit être un élément de que tu regardes pour savoir si tu le fais ou pas, au sens où tu vois, moi je suis très finance perso, là je vais pas faire d'IMO dans les 3-4 prochaines années tant que les taux sont aussi élevés, sauf s'il y a une opportunité de ouf quoi, mais
Bah si, comme on disait tout à l'heure, faut tout négocier. Hein.
Ouais.
Ça veut dire quoi?
Mais
ça veut dire
tu peux faire
plusieurs banques.
Oui.
Tu fais jouer.
T'es bloqué par le taux de la BCE quoi.
Ouais, ah oui, ça c'est sûr qu'il y a les taux directeurs, mais généralement elles sont au-dessus des taux directeurs.
Mais donc ils peuvent pas descendre en dessous du taux directeur.
Non, c'est sûr.
T'as un taux directeur qui est à 5, 6, 7.
Ils sont là. Donc là, après c'est les coûts administratifs, les coûts de développement du prêt. La période de, s'il y a une période d'amortissement, tu peux aussi avoir une période d'amortissement. La durée de remboursement. Le montant de la contre-garantie, etc. T'as plusieurs conditions autour du prêt que tu peux leverager pour essayer de prendre la meilleure offre adaptée à tes besoins, quoi.
Ok. Très, très cool. Tu vas avoir un banquier en costume ou pas?
Moi?
Ouais.
Non. Enfin, moi, je mets pas de costume à part pendant les mariages et encore, il tient pas longtemps à partir de l'apéro, il y a plus de costume.
Ah, j'adore. Avant de passer à des financements un peu plus originaux, on va passer et revenir du coup à du non-dilutif, on va aller sur du dilutif. Le truc que tout le monde connaît, je crois. En tout cas, autour de moi, c'est un peu le financement star, c'est le venture capital, le capital risque en français. Qu'est-ce que c'est le VC?
Le VC, donc c'est vraiment la partie, comme tu dis, la plus connue, c'est celle où les investisseurs vont prendre part à l'aventure de l'entreprise, devenir des vrais associés du projet, en investissant de l'argent contre du capital.
C'est qui ces investisseurs? On a cité déjà quelques-uns depuis le début.
Ouais.
On a cité des fonds, on a cité des BA. D'ailleurs, c'est quoi un fonds, un BA?
Ouais, t'as plusieurs catégories. T'as les business angels, qui sont des personnes physiques qui investissent de leur argent personnel dans des projets. T'as des clubs de business angels, des structures qui sont avec plusieurs business angels qui se mettent en commun pour investir.
Type Caption Market ou le Blast.
Voilà, Blast autour de d'Anthony Bourbon, mais t'en as
un paquet.
Vraiment, t'en as 250 en France. Donc tu vois, t'as même ceux d'écoles de commerce ou d'universités qui se mettent ensemble. D'ailleurs, Paul Midi, qui est le député qui travaille en ce moment sur une démocratisation plus large du financement, encourage les universités et les écoles à créer d'autres clubs d'investissement et de fonds d'investissement étudiants. Il y a ce qu'on appelle ensuite les family office, qui sont un peu la stade au-dessus, c'est-à-dire des familles fortunées françaises qui ont une branche d'investissement. Donc, il y en a dans l'immobilier, dans l'art, etc. et dans le capital risque. Il y a une quarantaine de familles.
Tu peux en citer deux, trois?
Alors, il y a Financière Saint-James de Michael Benabou, la famille Dassault, le groupe Mullier aussi, qui a créé Adev en investissement. Afflelou, enfin t'as pas mal de family office spécialisés qui sont assez discrets, c'est un peu difficile de les trouver, mais qui existent et voilà, si on a les bonnes intros, bouche à oreille, ça peut marcher. Ensuite, on a les fonds de venture capital. Donc là, c'est les fonds ce qu'on appelle VC, c'est vraiment des structures d'investissement qui sont agréées par l'AMF, des sociétés de gestion qui vont venir déployer des capitaux qu'ils lèvent eux-mêmes pour investir dans des startups dans le but de rembourser leur investissement et de faire une plus-value. Et ensuite, il y a d'autres catégories dont on peut parler, les corporate venture, qui sont les branches d'investissement des corporate, enfin des entreprises françaises qui vont venir allouer une certaine somme de leurs bénéfices ou de leurs revenus sur de l'investissement dans des entreprises non cotées et à risque, donc les startups en particulier. Et on peut aussi parler de deux autres, c'est les fonds étrangers, donc c'est pareil, c'est des fonds VC, etc., mais c'est une catégorie qui existe en France, qui investissent dans la tech en France, et ce qu'on appelle aussi les fonds de private equity, qui vont venir avoir une dynamique d'investir dans des startups qui sont plus grosses.
Ouais.
On peut les rapprocher aussi de ce
Comment
qu'on appelle des fonds d'aide,
toi,
fonds LBO.
Les VC et les...
Est-ce qu'ils sont les ouais. private equity ouais. C'est ce qu'ils sont sur Twitter ou pas
okay.
Tu vois, généralement les VC vraiment... sont sur
ouais.
Twitter.
Ouais.
Et ils passent vraiment une question de taille. Non, ouais, c'est ouais. une question. Non, c'est une question de taille déjà. Ouais. Effectivement, même s'il y a maintenant il y a des fonds de venture ouais. qui sont énormes, hein, comme Ininvest ou Partech ouais. en France, qui sont même Alven, Iris Capital. C'est des fonds qui sont très historiques et qui ont des performances ouais. éprouvées, qui sont à plusieurs générations de fonds, etc. Et qui se rapproche d'ailleurs plus des fonds de private equity parce qu'ils investissent dans des entreprises de plus en plus
matures. Le PE, c'est quoi? C'est à partir de la série C?
Ouais, alors il n'y a pas forcément de série en PE. Ouais, c'est plutôt des entreprises,
de
c'est plutôt même des phases qui sont en pré-rentabilité ou rentables, qui sont dans moins
et
de risques.
Du PE sur du non-rentable?
Ouais, bah c'est le venture capital. Hein. En fait,
du
venture,
coup, c'est du VC.
Ouais, c'est le VC, c'est une branche
du PE,
tout simplement. Hein. Ouais. Dans ce qu'on a, bon, en France, si on parle, c'est capital développement et dans le capital développement, t'as le capital risque qui est une sous-branche. Et là, t'as autant de fonds que de thèses, que de catégories d'investissement, des fonds spécialisés, des fonds généralistes, des fonds seed, des fonds plutôt dans les séries d'investissement plus importantes. Quoi.
Et justement, tu l'as dit, chaque fonds a sa thèse. C'est important de le savoir parce que du coup ces fonds rentrent à ton capital contre donc prennent te donnent de j'allais dire de la moula ouais. te donnent du cash contre de l'equity
voilà. C'est 18h là Arthur il
te donne du cash contre de l'equity pour aller les voir et leur demander du cash
ouais.
Faut faire quoi?
C'est marrant parce que mes filles elles disent la moulaga en ce moment donc tu vois, je suis en train de leur dire non faut pas dire ça donc je vais dire pareil hein, c'est pas bien ouais en fait il faut savoir que des investisseurs deviennent vraiment des associés donc ils vont ouais. prendre part à ce qu'on appelle la gouvernance de l'entreprise, ils vont partager les décisions, la vision, l'entreprise est censée rester aux mains stratégiques des fondatrices et fondateurs, des équipes. Et voilà, l'investisseur, je prends souvent, pour donner un exemple, l'exemple de la voiture. C'est-à-dire que généralement, un investisseur, il va venir te mettre de l'essence.
Ouais, bah, tu peux parler voilà. des 20% éventuellement.
Ouais, voilà, à chaque stade de développement. Bah, on pourra le faire pour les séries, mais tu vois, il met ouais. de l'essence. T'as plusieurs catégories d'investisseurs. T'en as qui se mettent dans le coffre et qui disent « appelle-moi quand on arrive et je veux rien savoir ». Donc généralement, des business angels qui ont mis un ticket pour aider la start-up, mais qui n'ont pas forcément du temps, etc. Puis t'as ceux qui se mettent place passager, t'as ceux qui commencent à jouer avec la musique, qui choisissent le GPS, qui t'indiquent la route ouais, et puis voire même qui touchent le volant, tu vois, directement. Donc c'est juste une image pour.
Et puis t'as ceux qui sont derrière aussi.
Ouais,
que tu peux solliciter que quand t'as besoin d'un coup de main.
Ouais, exactement.
Sur téléphone et quand t'as ouais. besoin.
Tu... Voilà, exactement. Tu vois, quand t'as besoin d'un petit conseil, bon, on peut filer ouais. la métaphore ouais. À fond, quoi.
Non, mais elle est pas mal, cette métaphore, je la réutiliserais.
T'as le paroxysme étant celui qui était dans l'auto-école, c'est-à-dire qu'il a même lui-même les freins
ouais.
et l'accélérateur dans son.
C'est moins bon signe pour les fondateurs.
Ouais, exactement. Ça dépend dans quelle phase, parce qu'après, parfois, t'as besoin aussi, mais généralement, un VC qui est très présent, trop présent, c'est pas forcément son rôle aussi. Et puis d'ailleurs, il n'a pas le droit de le faire. Hein.
Ça peut être
ce qu'on appelle gestion de fête. Ils doivent se protéger aussi de ça. C'est pour ça qu'il y a les packs d'actionnaires qui s'organisent autour de ça, de qui décide quoi, comment, pour pas être dans la catégorisation de la gestion de fête, parce qu'après, ils sont responsables juridiquement, pénalement.
S'il y a des fautes de gestion, etc.
Sur les fautes, ouais. commercialement et autres. Du coup, c'est un savant mélange à savoir entre tout ça et c'est lié un peu à l'alignement de valeurs que tu as avec les entrepreneurs et les investisseurs qu'ils ont ensemble et à l'engagement qui est fait autour du deal. C'est pas juste te fais un chèque, c'est ce chèque il est pourquoi, comment, qui va gérer, de quelle manière, comment on s'entend. Alors faut plutôt prévoir que ça va être difficile que de se taper dans le dos, ouvrir le champagne, comme on a dit tout à l'heure. Vaut mieux anticiper. C'est un peu comme les mariages. Tu vas voir le notaire et il te dit bon, bah alors s'il y en a un qui meurt, mais que l'autre est brûlé dans sa maison, mais que la maison est encore machin. Enfin bon, je force le trait, mais
non, mais ouais, c'est
ouais, anticiper aussi que c'est difficile l'entrepreneuriat. Donc moi, un des bons conseils que je donne aux entrepreneurs. Deux conseils que je donne, c'est de poser autant de questions que le VC ou l'investisseur ouais. au moment du pitch. Bon. Ouais, voire plus, mais enfin voilà, tu vois, pas être subir le meeting. Et le deuxième, c'est vraiment essayer de savoir si je suis dans la merde, comment cette personne mènera.
Ah ouais.
Et comment il va réagir. Et de poser les questions évidemment aux pairs qui ont levé des fonds avec. comment c'était dans vos boards, est-ce que tu as eu des difficultés, comment ça s'est passé, quoi.
Parce que du coup, c'est important de le rappeler, mais ton investisseur, ça devient ton associé. Et donc, tout comme ton associé, tu dois le connaître, pas sur le bout des doigts, mais presque. Et donc, c'est important quand tu lèves des fonds, d'aller voir des investisseurs qui sont pertinents. Donc, à la fois sur la série, on reviendra là-dessus après, mais aussi sur la thèse d'investissement.
Ouais, exactement, évidemment.
Ouais, mais
même pour l'investisseur.
Pour nous, ça semble évident parce qu'en fait, on a fait du VC, mais.
Je veux dire, tu choisis les VC, ça me paraît pas, on va dire, existant des VC qui vont investir dans des trucs exotiques qu'ils font jamais. Alors, ils peuvent le faire, mais tu le choisis un peu par son secteur, ou du FOMO, et puis après, ils vont pas forcément t'aider. C'est plutôt dans les business angels d'essayer de les choisir en disant, tiens, comment cette personne connaît le secteur, le domaine d'activité.
Quelle valeur elle va m'apporter.
Justement, quand tu es entrepreneur et que tu débarques dans cette jungle, tu c'était tellement de, en plus de, déjà de typologie d'acteurs et même au sein des fonds, c'est vrai qu'il y a des fonds très spécialisés, des fonds un peu plus globaux. Est-ce que tu as quelques conseils pour savoir vers quel acteur se tourner selon la phase de maturité?
Alors c'est toujours un mystère ça parce que c'est les. Alors, en plus c'est assez inéquitable. Donc faut déjà partir du point que si t'es pas à Paris, d'école de commerce ou de grande université. Et que t'es pas un homme, c'est compliqué. Voilà. Moi, je prends souvent l'exemple d'une chercheuse, femme, solo founder à Grenoble, noire et handicapée. Là, même si son projet est très stylé, ça va être assez compliqué. Pourquoi ? Parce que c'est un écosystème qui est assez patriarcal, dans le sens où ça a été issu d'un écosystème financier, donc beaucoup d'hommes
qui se ressemblent tous,
qui ont les mêmes parcours professionnels, etc. Ça commence à se diversifier, mais le gap est très très fort. Donc il y a des associations qui militent pour ça, et moi je travaille beaucoup sur ce sujet-là aussi.
C'est qu'on peut citer un type Sista.
Il y a Willa qui est l'incubateur qui s'appelait Paris Pionnière. Il y a Leia Capital, Win Equity. Il y a même des agences de recrutement sur ces sujets comme FML Agency. Enfin voilà, il y a pas mal de sujets. Ça se démocratise, ça change, mais c'est encore trop timide et il faut qu'on accélère. Tout ça pour répondre à ta question de dire comment les trouver, c'est déjà d'être conscient de tes facilités ou des difficultés. Faut pas se voiler la face et faut essayer d'être conscient de ça. Si t'es une femme, c'est plus dur pour toi de lever des fonds. C'est un état de fait. Va falloir s'habituer à ce que t'aies des questions qui soient différentes, qui soient posées que si t'étais un homme, que t'as moins de rendez-vous que tu vas avoir et que même quand t'as des term sheets, ça va être des montants moins importants.
Partir à la guerre.
Faut vraiment partir à la guerre. Donc déjà, pour bien se préparer à lever des fonds, conscience de qui on est, quel est notre projet, combien on va chercher. La deuxième question, c'est... moi, je dis souvent qu'un bon entrepreneur, c'est un entrepreneur qui est toujours en recrutement et toujours en recherche d'investisseurs. Chercher des fonds, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de chercher quand tu n'en...
Quand t'en as pas besoin.
Ouais, c'est déjà trop tard.
Le conseil de base, parce que ça met longtemps de lever des fonds, 6-8 mois. Maintenant, c'est même plus... en 2023, c'est plus 8-12 mois même.
Je profite juste, petite parenthèse, pour déconstruire le mythe. C'est vrai que des fois, on entend « Ouais, là, je vais lever dans 6 mois, machin. » Les gens sont vachement sur deux là-dessus. Il faut quand même rappeler qu'une levée de fonds, c'est un processus qui est long, très chronophage. Sur lequel il faut vraiment bosser. Hein.
Et en plus, ça me rejoint sur un autre conseil, un troisième que je peux donner, c'est ça, c'est d'être en forme. Il faut être en forme physique, mentale, être habitué à, enfin, se mettre en posture de recevoir plein de noms, plein de recevoir des ton projet va pas marcher, des trucs, c'est assez décourageant. Et même quand ça se passe bien, c'est-à-dire que t'as des très bonnes marques d'intérêt que tu choisis, c'est très stressant parce qu'il faut faire bosser plusieurs parties, les mails qui partent pas, les sommes qui sont mal mises,
ceux qui répondent pas,
ceux qui répondent plus, ceux qui reviennent sur leur décision. Donc faut être armé psychologiquement, être en forme physique et mental, et que ce soit chronophage. Donc un autre conseil qu'on peut donner, je sais pas combien ça fait, mais un autre conseil, c'est qu'il n'y ait que un ou une des co-founders qui se mettent sur le sujet de la levée de fonds. Ça sert à rien d'aller dans les pitchs à trois. C'est vraiment, généralement c'est le ou la CEO qui va être référent sur le sujet et qui va reporter aux autres. Et puis s'il y a besoin du CTO à un deuxième rendez-vous, là oui, why not. Mais généralement ça c'est un peu des conseils qu'on donne. Ensuite donc comme on disait d'être toujours un peu en recherche d'investisseurs, ça veut dire trois conseils que je peux donner, trois sous-conseils, c'est de communiquer, de faire du storytelling, de faire du branding. Au début, on a beaucoup ça, donc de parler de soi, de parler de son projet, de parler de son idée sur les réseaux, sur un blog post, sur un écosystème, de rencontrer les gens de son écosystème. Si on est dans les deep techs, d'aller dans les événements, d'être dans les newsletters, de communiquer dessus, d'être de se connecter aux personnes qui sont influentes dans ce secteur-là. et de faire jouer son réseau un maximum. Donc ancien du travail dans lequel on était, de l'école ou de l'université, de l'incubateur ou l'accélérateur dans lequel on est, c'est de faire jouer l'effet réseau, etc. Parce que au moment où on va commencer à te présenter des personnes, tu les ressolliciteras au moment où tu lèves, bah, tu auras déjà eu ce premier contact.
En ce moment, j'aime bien dire un truc qui colle bien avec ce que tu dis, c'est... Il y a un gros edge quand t'es entrepreneur, c'est créer ton propre incubateur. Au sens où tu t'entoures de tous les leaders de ton écosystème, en leur demandant voilà des feedbacks, qu'est-ce que vous pensez de ça, comment vous feriez ça, comment vous vivriez ça. Vraiment, tu les impliques à fond. Et comme ça, à chaque fois que t'as besoin d'un truc, tu leur envoies un petit WhatsApp, parce qu'en fait, ils sont au courant en permanence de ce que tu fais. Je vais pas donner toutes mes petites ressources, mais il y a un petit hack.
Mais bien sûr.
Tu crées une, tu sais, par exemple, tu crées une newsletter spéciale, ton écosystème. Ouais. Et dedans, tu mets tous les gens que tu rencontres et tu leur donnes des petites actus toutes les deux semaines. Ouais. On en est là, les prochains enjeux, c'est ça. On a fail là-dessus. Et en fait, tu vois,
je viens naturellement vers toi.
Je vais pas donner de secret, mais moi, chaque fois que j'ai fait ça, il y a des gens autour de moi qui m'ont dit, bah attends, t'as fail là-dessus, moi j'ai ça, ça peut t'aider là-dessus. Et en fait, c'est plus un fail, ça se transforme en succès.
Je suis complètement d'accord avec toi. Ça me fait penser à un ami entrepreneur, un excellent entrepreneur qui s'appelle Alexandre Bonetti, ouais. Qui lui dit, je déjeune tous les mois avec une baleine. Donc une baleine, pour lui, c'est un entrepreneur expérimenté. Baleine dans le sens, il a une expérience de malade. Et j'apprends de lui autour d'un déj, dans mon écosystème ou pas d'ailleurs, hein, parce que là tu dis ouais, créer un peu ton propre incubateur, mais tu fais venir dans ton propre incubateur aussi des personnes qui sont pas habituées forcément à ton écosystème et qui vont te donner des feedbacks externes qui ont énormément de valeur, quoi.
Et qui te permettent vraiment de passer à échelle. Est-ce qu'on n'a pas parlé des séries?
Ouais.
Du coup,
ouais,
c'est intéressant.
Donc rapidement, les séries d'investissement, donc tout simplement c'est les phases de levée successives, puisque généralement c'est un milieu assez syndiqué, c'est-à-dire qu'on va lever de façon successive. Alors après, il y a
à quel moment tu lèves, quelle levée c'est, ouais, et pourquoi tu lèves.
Exactement, donc c'est les questions de façon à se poser. C'est combien d'argent, la première question c'est combien d'argent j'ai besoin pour faire quoi. C'est pas combien je veux lever, à quel valo je veux avoir pour être sur LinkedIn, tu vois. C'est
la valo, on s'en fout pas jusqu'à ce que ça soit la négo, mais tant que tu négos pas, on s'en fout.
En fait, dans les deux premiers stades de développement, que ce soit l'amorçage et la série A, donc c'est série A, B, C, D, E, etc., parce que ça vient des États-Unis où c'était découpé en series d'investissement, et du coup c'est généralement autour des montants qui sont investis, et ces séries elles évoluent. Il y a 10 ans, un site c'était autour de 500 000 euros, maintenant c'est plutôt autour de 3 millions d'euros, enfin en moyenne, parce que l'écosystème a grandi et les typologies de financement ont chacune progressé. Ça s'est tiré vers le haut, si tu veux. Donc, en fonction de ces stades, généralement les deux ou trois premiers, la règle elle est assez simple de la valorisation. Alors, je veux pas vulgariser parce que la valorisation, tu fais un produit en croix. tu dis 100%, enfin faut se souvenir de la règle de 3, donc je crois que c'est niveau 3e,
hein.
Même pas, même avant maintenant. Où tu dis bah généralement c'est autour de entre 15 et 25% que je vais laisser à ces stades de développement là, parce que c'est les pratiques du marché tout simplement.
Donc tu donnes 15 à 20% de ton capital, du capital de ta boîte, à tes investisseurs.
Exactement.
15 à 20% qui sont répartis entre tous les investisseurs à chaque série.
Voilà, en fonction de la somme qu'ils ont mis.
C'est des pourcents, de pourcents, voilà, qui se découvrent.
Bon, après, pour les auditeurs et auditrices, il faut pas se dire que c'est pas un standard, mais c'est la pratique du marché. Après, tu peux très bien avoir des levées qui se font différemment. Ça a un peu brouillé les pistes, qui veut être mon associé, c'était un peu la...
Prends 50% de ta boîte, c'est chaud.
C'était un peu le marché de Rungis du financement, quoi. Et puis surtout, la manière dont c'était dit, en plus, c'est des investisseurs, pour certains que je connais, qui pratiquent pas du tout ce type d'investissement-là. Et là, c'était vraiment... moi je te donne 50 000 euros pour 60% de ta boîte.
C'est un peu le Far West médiatisé, quoi.
Ouais, là j'étais pas ultra convaincu sur ce sujet-là. Après, ça a permis de favoriser aussi la connaissance de ce secteur de l'investissement, de le démocratiser un peu, de montrer un peu les avantages et les inconvénients de cet écosystème financier. Mais en tout cas, généralement, ce qui se fait, c'est autour de 15 à 25%. Après, ça peut être aussi moins. Alors, celle-là, ça va être les frimeurs. Ouais, j'ai fait un super seed. On est valorisé 10 millions. Sauf que quand t'es valorisé très cher, dans les premières étapes du développement, bah après, il faut justifier cette valorisation. Soit parce que tu fais du chiffre d'affaires suffisant ou que t'as de la valeur dans ton entreprise qui justifie cette valorisation avec le temps. soit parce que tu relèves des fonds et que la valorisation est au-dessus. Mais il va falloir après y aller. Hein.
Ouais. Mais tu conseilles justement de se faire, enfin, pas être survalorisé en tout cas, pas de faire ouais, moins valoriser. Mais
je pourrais donner deux conseils là-dessus. C'est pas lever trop tôt.
Ouais.
Moi, j'ai fait cette erreur dans des boîtes dans lesquelles j'ai investi.
Du coup, quand est-ce que toi tu leverais?
Moi, je lève quand tu as une preuve commerciale. Okay. Tu vois. Alors, ça dépend de l'écosystème. On a parlé des deep tech, mais la preuve commerciale est que tu peux montrer qu'il peut être exponentiel. Voilà, et qui peut être voilà et la taille du marché après que tu peux justifier pour dire voilà nous on va prendre telle part dans tel ordre etc. Mais si t'as pas vendu, en fait tu sais pas quel est le prix, quel est le modèle économique, quel est le business et puis parfois dans le modèle d'innovation que t'as, ça peut être ouais le go-to-market, ça peut être un des points d'innovation de ta boîte. Ouais. Le prix, ça peut être un des points d'innovation. Le pape étant Xavier Niel là-dessus, tu vois. Ouais. Sur ces sujets-là, ça fait partie des choses que tu dois tester avant d'aller un peu chercher du capital privé. Alors après, tu peux le faire aussi avant, c'est le pré-seed. Généralement, on les fait ce qu'on appelle aussi en BSR, donc c'est des formes de bons de souscription qui vont se transformer en actions, notamment au levée future. Et puis après, en fait, plus tu avances dans le temps, dans les séries d'investissement, série A, série B, plus tu vas vers des investisseurs qui sont de plus en plus professionnels. Et donc là, ils vont challenger et négocier avec toi la valorisation.
Là, c'est du chiffre, hein, c'est ça, vraiment.
Exactement.
Ouais.
Et combien là, il va falloir...
lifetime value, etc.
Exactement. Là, tu vas avoir tous les indicateurs de performance. Là, on a fait des posts récemment sur Eldorado sur les top 10 des indicateurs de performance à avoir en tête quand on va lever en SaaS ou en B2B, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'acronymes aussi et d'anglicismes dans l'écosystème. On a même sorti un glossaire de l'écosystème, c'est un dictionnaire français startup français, parce que parfois tu t'y
perds. C'est important,
un peu.
Ouais. Je pense que c'est pas mal.
Puis c'est un peu de l'entre-soi aussi où t'es là, ouais, on fait des decks et tout.
Ouais, c'est ça.
Mais comme dans tout écosystème, hein, d'ailleurs, on se moque, mais les avocats c'est pareil, les médecins c'est pareil, etc. Mais en tout cas, c'est le côté anglicisme et casquette à l'envers, Max sous le bras qui peut faire un combo un peu bizarre.
Avec Evans.
Voilà, avec Evans et tout. Mais en tout cas, ouais, c'est dans les stades d'après, ça va être plus à justifier, négocier. Et là, l'equity story, comme on dit, hein, pour reparler d'un anglicisme, c'est aussi différent que des formes de boîtes qui peuvent être aussi différentes les unes des autres. On dit souvent, les meilleurs entrepreneurs aussi sont ceux qui réussissent à garder le plus de capital à terme, hein, parce que si tu as 1% de ta boîte au moment de la revente, bon, t'as toujours le jeu des actions de préférence ou des promesses de cession ou autre mécanisme. Mais voilà, c'est aussi ça, Jean de la Roche-Brochard ou Xavier qu'on a déjà cité, Xavier Niel qu'on a déjà cité, eux s'amusent à dire souvent, mais pourquoi tu cherches des investisseurs alors que ça fait partie des plus gros investisseurs seed de la
place. Bon, en volume, c'est
la place, ouais.
En volume, ouais. Ouais, ouais. Avec BPI peut-être, mais bon, BPI,
ils
si on met...
Ils sont encore au-dessus de BPI. L'année dernière, ils étaient au-dessus, cette année, ils sont au-dessus.
Ouais, ouais, je pense en termes de volume, là, ouais, c'est quelque chose. Ouais.
Et tu mentionnais tout à l'heure, pour revenir un tout petit peu, enfin, englober la deep tech, souvent, c'est des fonds vraiment spécialisés, qui sont peut-être un peu moins médiatisés et un peu plus dur à trouver, même s'ils sont moins nombreux.
Ouais, c'est exactement ça.
Comment on les trouve et est-ce qu'on leur parle différemment
sur Eldorado, okay. Enfin, il faut juste mettre un lien vers Eldorado. Non, blague à part, on fait nous on les classe par catégorie, on est très exhaustif. C'est difficile de trouver des business angel deep tech aussi parce que voilà, c'est souvent des entrepreneurs qui en ont fait de là-dedans. Je sais pas. Alors, le plus gros investisseur deep tech en France est BPI, hein, par ses fonds deep tech notamment. Mais t'as Elaya qui est très connu, Sophie Nova. T'en as ouais, Sophie Mac, Supernova, alors ils ont plein de trucs avec des A, je sais pas pourquoi, Serena aussi, tu vois, donc qui font de la deep tech, c'est-à-dire qu'ils ont déjà fait des boîtes dans des technologies de rupture dans certains secteurs.
Est-ce qu'on leur parle différemment, parce que justement on n'a pas forcément des preuves de marché aussi pertinentes et autant de chiffres que quand on est
oui,
SaaS, par exemple.
Exactement. Ou... C'est pas les mêmes indicateurs de performance, ouais, qu'on va aller voir et analyser. Notamment, c'est sur les enjeux de barrière à l'entrée, le cash burn, qui va être beaucoup plus
important en général,
ouais, plus important et donc plus, ouais, plus à détailler, à voir en quoi ça va apporter, le brevetage des technologies,
enfin, le labo qui est associé, non?
Pardon?
Le labo qui est associé.
Oui, le labo, les chercheurs qui travaillent, leurs diplômes. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui sont un peu différents que d'une startup qui n'est pas forcément dans la deep tech.
Ok, très clair.
On a parlé de combien on donne, qu'est-ce que c'est un fonds, les différentes séries. Est-ce qu'on a fait le tour de...
Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Bah déjà la
VC ou pas. Peut-être ouais, petits conseils pour terminer
après,
là-dessus.
Après ouais sur le financement, je terminerai par le premier conseil qu'on donnait tout à l'heure, c'est que c'est pas une fin en soi, une levée de fonds, c'est un moyen pour arriver à votre fin et il faut toujours l'avoir en tête comme tel, sinon c'est piégeux.
Ouais. Parce que moi c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, qu'est-ce que toi t'en penses ? Est-ce que le fait de lever des fonds ça doit servir à passer à échelle sa boîte, type développer un nouveau produit et tout, ou ça doit être aussi le fait de changer de job, parce qu'à partir du moment où t'as levé des fonds, t'es plus un entrepreneur qui bootstrap. C'est vraiment très différent d'être bootstrapper et d'être entrepreneur quand t'as levé des fonds.
Tu peux passer de starter.
Ouais, c'est une très bonne remarque, c'est-à-dire que ton métier change un peu hein. Quand t'es CEO les 6 premiers mois et à la 6e année, c'est pas la même chose.
C'est une bonne raison de lever des fonds ou pas ?
Ouais, ça peut être une bonne raison justement pour spécialiser un peu le rôle des co-founders. S'équiper de personnes expérimentées aussi qui viennent te challenger dans leur domaine, soit RH, market ou autre fonction support, mais aussi sur les fonctions sales et tech. Hein. Ça peut être vraiment un enjeu intéressant pour ça. Et puis du coup d'avoir un nouveau rôle qui est plus stratégique opérationnel pour le CEO, bon sans créer des cases, mais au moins ouais de plus se spécialiser et plus se concentrer à avoir un focus bien réparti quoi.
Ok, on peut peut-être passer du coup à la catégorie la plus originale auquel finalement on pense assez peu dans l'écosystème startup, c'est le crowdfunding.
Ouais, le crowdfunding, le financement participatif. Ouais. Ouais,
vous accompagnez là-dessus sur Eldorado ?
Non, nous en fait, donc le financement participatif, ça a été une catégorie qui s'est démocratisée depuis 2015, avec donc du coup la possibilité de Monsieur, Madame Michu de mettre 100 euros dans une startup. Et ça a beaucoup aidé notamment les startups hardware et les startups en pré-vente, pré-produits, qui ont pu lever des sommes. Ça s'est beaucoup développé. On n'a pas énormément de success stories issues du crowdfunding classique. Après, il y en a plus qui sont développés sur le crowd lending. Donc, c'est une catégorie du crowdfunding, mais sur le prêt, comme son nom l'indique, ou le crowd equity, avec la partie equity.
Qu'est-ce que t'en penses des deux?
Bah, c'est un peu la même chose. J'attends de voir. C'est-à-dire, crowd lending, ça marche bien. Il y a des...
T'as fait des deals, toi, là-dessus, ou pas?
Non. J'ai jamais fait en lending pur. De par mon métier, je voulais aussi participer à l'aventure entrepreneuriale. Et puis, c'est plus une dynamique de, bah, tu donnes un peu d'argent et puis tu vois ce que ça donne plus tard. Et tu donnes des plus petites sommes généralement en crowd. Après, il y a beaucoup de plateformes qui sont développées par leurs compétences. Tu vois, c'est souvent des boîtes immobilières comme WeSeed, Anaxago, etc. en IMO et qui ont eu une branche startup parce qu'ils voulaient proposer une nouvelle classe d'actifs.
Parce que sur les startups, sur l'IMO, moi par exemple, j'ai de la thune dans WeSeed, en vrai, ça fonctionne bien sur l'IMO. Par contre, sur les startups, moi je suis pas convaincu.
Ouais, bah, parce que c'est pas du tout le même classe d'actifs. Et en fait, c'est ça qui est un peu compliqué, c'est d'avoir une classe d'actifs tech avec une classe d'actifs pierre. Ça n'a rien à voir.
Parce que tu peux rappeler rapidement comment ça fonctionne?
Alors en fait, c'est que tu viens sur une plateforme, tu mets ton nom, une vérification d'identité, ce qu'on appelle les processus KYC, hein, qui vont venir vérifier l'identité, l'origine de tes fonds, valider le fait que ce soit pas du blanchiment, etc. et autres. Et tu vas pouvoir investir des sommes qui peuvent aller généralement de 100 à 5000 euros. Enfin, après, tu peux toujours investir plus.
Via des SPV qui sont montés sur chaque startup pour faire comme un club deal.
Voilà, c'est ce qu'on appelle un SPV, un Special Purpose Vehicle. Généralement, tu peux avoir même 200, 250 personnes dedans qui est représentée par une personne qui est représentant de la communauté d'investissement dans la startup.
Qui peut être au board ou pas de la startup en fonction de la philosophie de l'organisme.
Ouais. Pour ouvrir au débat, justement, est-ce que tu penses que le fait d'investir des plus petites sommes par Monsieur Tout-le-Monde, ça peut être un moyen de commencer à participer au financement de l'innovation par tout le monde sans trop se mettre à risque et avoir forcément à trop comprendre ce dans quoi on investit?
Bah, franchement, moi j'ai 1000 euros, je le mets plus dans un crowdfunding immobilier, si tu veux. Ouais. Je veux pas du tout taper sur les plateformes de crowdfunding parce qu'il y en a que j'aime beaucoup et qui ont une logique vraiment très bien. Tudigo, tu vois, je connais bien Alexandre et c'est une très belle boîte. Il y en a qui sont un peu moins bons, il y en a qui font un peu plus les faux-follets, etc. Donc il y a un peu à boire et à manger, et c'est un peu compliqué, donc c'est réglementé hein, quand même. Donc
ouais,
voilà. Mais il y a juste le disclaimer à la fin disant Investir est un risque. Si vous perdez votre argent, vous perdez votre argent et retour à la caisse départ sans toucher les 2000 euros. Donc ouais, c'est une classe d'actifs où je pense pas que philosophiquement ce soit nécessairement adapté dans la stade justement du site précis, parce que si tu connais pas, tu peux te dire ils sont dans leur garage, ils construisent un super satellite, ils font de l'IA, j'ai vu leur deck, c'est la folie. Et en fait voilà, ça doit être un peu comme le conseil que dit beaucoup d'investisseurs un peu chevronnés, c'est diversifier son risque et de commencer à avoir pour recevoir des decks si on a la capacité, mais mettre tous ses œufs dans ce panier là c'est une mauvaise idée.
Est-ce que c'est plus compliqué pour une startup de lever via du crowdfunding?
Ça dépend lesquels. Il y en a beaucoup qui sont démocratisés récemment de par l'écosystème qui connaît des difficultés pour faire des crowds auprès de leur propre communauté. Ouais. Et donc ça,
avec
c'est
Caption,
assez facile.
Par exemple.
Avec Caption.
Même sur des projets un peu impact ou des produits un peu consumers, c'est
exactement.
Bien,
ça ouais, en fait, quand tu tires la corde sensible, tes clients, t'aimes bien la boîte, c'est même sur du produit, hein, tu vois, ça marche très bien. Tu donnes aussi des avantages, mais tu deviens aussi actionnaire, donc c'est un peu excitant. En plus, si t'aimes bien le produit ou le service dans lequel t'es, que t'es sensible, c'est top. Et donc ça s'est démocratisé, ça a plus de succès parce que c'est assez rapide, t'as déjà ta communauté, tu fais entre guillemets juste à la mobiliser et après tu fais un beau post LinkedIn encore une fois hein, en disant ça y est, on a levé 5 millions auprès de notre communauté, etc. Juste pour dire un autre conseil qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais ne croyez pas ce que vous voyez sur LinkedIn. Ne croyez pas, s'il vous plaît, ce que vous voyez sur LinkedIn. C'est du storytelling, c'est comme les influenceurs sur Instagram, quoi.
C'est mieux Twitter.
Ouais, c'est du storytelling et il faut tout prendre avec recul, quoi.
Je te pose cette question parce que souvent les projets que j'ai vus, type sur WeSeed, etc., j'ai l'impression que c'est des projets qui sont pas arrivés à lever avec des VC classiques. Et s'ils sont pas arrivés à lever avec des VC classiques, c'est souvent pas pour rien. C'est que y a un petit loup qui se cache, etc. Loup qu'on ne voit pas forcément lorsqu'on n'est pas être investisseur, c'est pas notre job.
Je suis d'accord, c'est un bon réflexe que t'as, mais après ça peut être aussi des boîtes qui étaient trop jeunes ou qui devaient faire plus de preuves et qui avaient quand même ce besoin de cash pour arriver à l'étape d'après. Donc ça peut être les deux. En tout cas, faire confiance à la plateforme pour faire toute la due diligence mieux qu'un fonds VC, c'est vrai que c'est compliqué. C'est pas les mêmes populations, c'est pas forcément des investisseurs. Donc ça rejoint un peu ce qu'on disait aussi, c'est que faut le faire de façon limitée. Et si ces boîtes ont pas réussi avec des fonds VC, se poser la question de pourquoi véritablement, quoi. Tu
vois. Et là, du coup, on a le prisme consumer, mais du côté entrepreneur, est-ce que lever via du crowdfunding, c'est pertinent ou pas?
Ouais, si ça peut vraiment t'aider, hein. Sur des boîtes produits, moi, tu vois, j'ai investi dans une boîte qui s'appelle Lovebox, qui s'est créée par ça. C'est du hardware, c'est une boîte connectée à un device qui te permet de ramener de l'amour à la maison, etc. Mais ça s'est créé par ça. Je connais bien Maëlle de June, par exemple. C'est une des success stories, la boîte à histoire qui sont créées. Un produit vendu, il y en a des millions. Et là, il recrée même une campagne pour un nouveau produit et ça fait sens, tu vois. C'est de la prévente, ça t'évite d'aller chercher des banques. Ça justifie ton marché aussi, tout ça, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a un marché pour ça et puis ça donne de la confiance, ça donne du boost pour l'équipe. Et là, ça fait vraiment sens, ouais.
Ok, à quel stade c'est pertinent d'aller faire du crowdfunding? Parce que là, pour l'instant, à chaque fois qu'on en parle, j'ai l'impression que c'est du seed, pre-seed, quoi.
Ouais, c'est pré-seed, seed, pré-produit, pré-revenu, vraiment financer tes premières lignes. Nouveau produit, ouais. Pertinent, on vient de le dire, tu vois, mais si t'as un nouveau produit, c'est une
si
bonne manière.
Si tu fais du produit, c'est mieux de faire du seed en du crowdfunding en non-dilutif ou en dilutif?
Mieux vaut de faire le non-dilutif. De toute façon, si tu gardes ton capital, t'es toujours le mieux. Après, si ça fait sens, comme on a dit avec Crowdcube ou autre, d'intéresser tes utilisateurs dans le capital pour X ou Y raison, de les mettre dans SPV, parce que t'es déjà bien développé justement et que tu veux mobiliser ta communauté, ça peut faire sens, tu vois. Mais sur le démarrage, c'est même du crowdfunding pur, c'est du don contre don, voire du préfinancement de produit. Tu vois, t'achètes ton produit en avance et puis t'as un petit avantage de par toute ta contribution.
Ouais. T'as des conseils pour lever en crowdfunding
en comme les autres
et non dilutif.
Ouais. Se poser la question des boîtes qui ont réussi à lever avec cet acteur du crowd que vous avez identifié. Faire jouer la concurrence entre les acteurs du crowd. autre conseil pour avoir les meilleurs taux, parce que eux ils prennent de l'argent et en plus ils prennent du partage de valeur créée s'il y a un rachat, hein, donc ce qu'on appelle du carried interest. Et puis anticiper que ça peut être plus administrativement
plus long, plus long, compliqué.
Ouais, voilà, qu'une levée avec 8 business angels. Tu peux lever avec 5 business angels 500 000 euros et avec 500 personnes 100 000 euros, tu vois.
Et dans tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, est-ce que tu mettrais encore à part le club deal? Tu vois, ce que fait Caption, ce que fait Anthony Bourbon.
Bah, je l'ai mis dans les catégories d'investisseurs privés.
Ouais.
Là, parce il y a à boire ou à manger. Faut faire attention. Hein. Sur les nouveaux acteurs, faut être prudent. Pour plein de raisons, on pourra parler. Mais
business derrière aussi.
Ouais, voilà. Enfin, faut vraiment se dire, c'est quoi? Parce que on sait pas véritablement sur les conditions réglementaires si tout est bien calé et sur l'apport qu'ils vont avoir par rapport à d'autres. Tu vois, l'effet volumique, il marche très bien dans certains types d'investisseurs parce qu'ils sont nés comme ça. Kima, on en a parlé. Mais un club deal, je trouve que c'est ce qui est super intéressant, c'est les investisseurs qui vont pouvoir mobiliser une communauté pour là où les startups dans lesquelles ils investissent. Si t'investis dans 12 startups dans l'année ou 100, tu divises le temps en, ça n'a rien à voir, ce n'est pas le même timing, ils n'ont pas la capacité de mettre des board members ou des operating partners qui vont venir t'aider dans le développement de la boîte. Donc faut vraiment bien choisir. Pour bien choisir, c'est comme tout ce qu'on a dit tout à l'heure, négocier, voir qui a travaillé avec eux pour savoir comment ça s'est passé, est-ce qu'ils ont été au board, est-ce qu'ils ont remis de l'argent dans les tours de table
d'après.
Exactement. Et voir le track record. Donc c'est pour ça que les jeunes acteurs, j'aime bien les jeunes acteurs parce que c'est à la porte du nouveau, mais les jeunes acteurs, ils ont pas de track record, donc de d'expérience à prouver et des
t'as des club deals à recommander?
Ouais, j'en ai plein. Moi, j'aime bien Renault de Side Capital, c'est une référence dans les club deals en France. Très professionnel, donc envoyez-lui ses decks et ses boîtes avec grand plaisir. Nous, on travaille avec énormément de club deals, donc je veux pas forcément les discloser sur tous les trucs, mais j'aime bien les club deals spécialisés chez les femmes dans la tech, donc les IA Capital, Win Equity, etc., qui sont des clubs d'investissement spécialisés. Le Climate Club, qui est dans les investisseurs climat, qui commence à vraiment accélérer, qui va être une référence dans son secteur sans doute, et des clubs sectorisés, ouais, qui sont vraiment pas mal. Je pourrais me passer la soirée
pour arriver sur la fin de cet épisode qui je pense va hyper bien compléter du coup celui que t'as écouté avec Charlie, parce que deux épisodes en fait très très écosystème. Est-ce que toi tu conseillerais à tout et un chacun de mettre un peu d'épargne dans un club deal, dans un club de BA?
Alors, je veux pas conseiller les gens.
Non, c'est pas un conseil d'investissement, mais c'est vraiment.
Ouais. Mais non, blague à part.
Je trouve que c'est une bonne initiative, quoi.
C'est diversifier de toute façon ses investissements, c'est toujours une bonne idée quand t'as capacité de le faire. Et ce qui est intéressant dans l'écosystème de l'investissement dans les entreprises privées, c'est que ça te permet de participer à une aventure, une vraie histoire, ce qui n'est pas forcément le cas dans l'art, dans les cryptos, dans l'immobilier, etc. Et y a un côté émotionnel qui rend cet argent beaucoup plus
intéressant.
Plus intéressant, enfin plus profond dans l'investissement. Et donc ça, je pense que si des personnes ont la capacité de le faire, plutôt que de le mettre dans le livret A, même s'il est bien bonifié en ce moment, de garder une partie pour aller aider une boîte, ça fera créer de l'emploi. Et je pense que le gouvernement, et puis il y a déjà des initiatives qui existent pour favoriser l'investissement, l'IRPME
et
autres.
Mais pour autant, c'est hyper compliqué de savoir si la boîte est solide ou pas. Et c'est un job.
Tu le fais parce que t'es dans un club deal ou dans une plateforme qui fait ce job pour toi, soit tu passes du temps effectivement à essayer
mais
de
donc
voir.
Mais donc est-ce que pour Madame Michu, tu vois, c'est
non, là il vaut mieux le faire en groupement.
Ok.
Madame Michu, d'aller directement Monsieur Madame Michu, d'aller directement investir dans une startup, c'est
donc plutôt investir dans un fonds qui lui investit.
Voilà.
Ouais.
Ouais.
Et donc pas le financement grand public des startups, quoi.
Non, la professionnalisation du business angeling, j'y crois pas du tout. C'est un métier, ouais, d'être business angel professionnel. Ce que fait Anthony avec Blast, c'est très bien et très louable, etc. Beaucoup ont essayé de faire la même chose. Enfin, ils font déjà aussi la même chose dans la même logique. La logique club, très premium, etc. Après, il y a des sujets de plafond de verre, de montant et autres. Mais ça peut pas se démocratiser et concurrencer un milieu professionnel pour lequel...
Mais ça, je trouve que c'est important de le rappeler,
c'est,
tu vois.
Voilà, c'est un job, vrai métier. C'est une classe d'actifs qui est très complexe, les entrepreneurs. Très risqué. Hein,
et très humain aussi.
Très humain. Les entrepreneurs partent...
C'est presque de la sociologie.
La main. Ouais, c'est très spécifique. Donc, il faut pas y aller sans avoir un minimum de temps à y consacrer ou des partenaires de confiance.
Ouais. C'est un beau mot de la fin. Avant de terminer cet épisode, est-ce que tu aurais des grands conseils stratégiques autres que ce qu'on a déjà donné pour se financer? Je pense par exemple, ne serait-ce au fait que tous les éléments qu'on a dit sont complémentaires et qu'ils ne s'opposent pas l'un l'autre, et que justement, il faut jouer des avantages et des limites de chacun et de les faire matcher pour avoir la meilleure structure de financement de sa boîte et qu'elle soit alignée avec soi-même.
Ouais.
Est-ce que tu aurais d'autres conseils
Déjà des très bons conseils. Bah, c'est un peu ce qu'on a donné. Déjà, on a donné plein de conseils.
Directement applicables.
Si vous êtes encore là et que vous faites votre jogging, il est temps de rentrer chez vous parce que vous devez être presque au marathon. Mais non, l'anticipation, elle est clé, vraiment. Se poser la question de pourquoi prendre ce financement plutôt qu'un autre. Et les montants qu'on va aller chercher, comment on va utiliser cet argent. Donc je résume un peu ce qu'on a dit, et de bien avoir en tête que c'est pas une fin en soi, comme on l'a dit. Donc ce sont des moyens pour arriver à sa fin. Peut-être un conseil dans l'autre sens, c'est de ne pas dire que c'est pas fait pour vous. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on n'a pas fait une école de commerce, qu'on n'est pas à Paris, qu'on n'est pas un homme ou qu'on n'est pas que ça, que c'est impossible. C'est pas non plus ouvert du jour au lendemain, etc. Il y a une courbe de connaissances où même si on connaît pas Excel, etc., tout s'apprend, et c'est pas non plus la mer à boire à mettre en place dans le cadre d'un projet de lever des fonds, quoi.
Et d'ailleurs, tu fais penser à un truc, c'est que si vous êtes en région, petit coucou à Maya et à France Digital qui font des événements dans chaque grande ville pour rendre accessible tout ça. Ils emmènent les fonds, ils emmènent des VC, ils vous font rencontrer des VC, ils vous font votre réseau sur place.
Et je fais même un autre petit coucou, donc Maya super et super équipe de France Digital, mais aussi à Marine de la French Tech qui fait le French Tech Rise, qui est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire de favoriser l'investissement en région et les entrepreneurs en région. Donc il y a de quoi faire.
Est-ce qu'on a fait un bon tour selon toi des différents types de financement? Est-ce qu'il y a peut-être deux trois petits financements très spécifiques dont on peut juste citer le nom?
Ouais, très rapidement.
Innovation.
Ouais, là on peut parler des venture loans, du venture debt, donc qui sont des dettes court terme faites par des organismes de crédit qui sont très adaptés dans le cadre d'un refinancement ou un financement pour aller vraiment à une étape donnée. On a le RBF aussi, qui s'appelle le Revenue Based Financing. En France, on a Silver ou Carmen qui font ça, par exemple, qui sont des startups qui vont venir t'aider à financer ton revenu récurrent en amont et qui vont venir prendre une petite partie sur ce revenu qui va te permettre d'avoir du financement de ton besoin en fonds de roulement. Il y a les ICO, mais qui sont plus trop à la mode, donc les Initial Coin Offering, qui sont des financements en crypto-monnaie. Il y a les IPO, donc les Initial Public Offering, qui sont des entrées en bourse. Plus sympa de le faire aussi comme ça, qui sont financés en devenant public, donc c'est une forme de cession aussi, mais qui peut être une forme de financement, enfin vu comme une forme de financement aussi. Et c'est déjà pas mal, il y a déjà plein de choses, les fonds de dotation comme Raise, les fonds philanthropiques aussi comme Raise, qui sont des catégories un petit peu à part, mais qui sont très, très spécifiques. Je pense que là, on a déjà fait un bon petit tour, quoi.
De ouf.
Peut-être pour terminer, une dernière petite question pour ouvrir un peu plus la thématique. On parlait au tout début, justement, aussi de la dynamique européenne autour de tout ça. Est-ce que tu penses que pour pousser par exemple la tech, la deep tech, ce serait intéressant d'avoir aussi au niveau des fonds et du financement une dynamique à l'échelle européenne plutôt que nationale.
C'est totalement déterminant. Là aussi, France Digital, tu les as mentionnés, bosse beaucoup sur ce sujet et merci à eux parce que on ne fera pas avancer les choses de façon ambitieuse et mondiale en étant juste en région Île-de-France ou dans des hubs.
C'est vrai qu'on cite naturellement des fonds plutôt français, mais pourquoi pas aller chercher même des fonds européens.
Ouais, il y en a hein, des fonds européens et on a aussi cette liste aussi qu'on avait édité qui font des deals cross-border et qui collaborent entre eux aussi dans des deals. Donc il faut voir au-delà des frontières, surtout si on a un projet
ambitieux.
C'est vrai qu'ils
ont des bureaux un peu partout, non? En tout cas, ouais. Les gros fonds.
Alors les bureaux moins, mais enfin ils commencent à en avoir. Ça y est, maintenant ça se démocratise aussi un petit peu. Mais c'est surtout la capacité de faire des deals cross-border, à travers différents pays. Même des fonds français qui investissent pas mal à l'étranger. Tu vois, on a parlé d'Iris Capital, ils investissent pas mal en Allemagne, etc. Donc tu vois, t'as cette logique-là. Ouais.
Bah écoute, merci beaucoup Adrien pour ton temps et pour cet épisode. Je crois qu'il est très 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 riche
complet
d'infos. Bah,
écoutez les gars, c'était un grand plaisir. J'espère que ça a donné plein de bons conseils.
Je pense qu'on
a abordé beaucoup de sujets qu'on voulait aborder, qui faisaient pas un podcast. Le sujet en soi faisait pas un podcast, donc c'est cool. C'est très très cool.
Pour les moins initiés, peut-être un petit Doliprane pour analyser
ouais,
tout
exactement.
Ça.
Mais prise de notes.
Bah écoutez, merci à tous et à très vite, à la semaine prochaine pour un futur épisode.
À très bientôt, Adrien, merci.
À bientôt et merci à vous. Merci pour l'invite.
Merci à tous de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. N'oubliez pas de noter ce podcast 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et surtout, si l'épisode vous a fait penser à quelqu'un, n'hésitez plus et partagez-le lui tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet. À très vite.